Vous êtes sur RTL.
Programme. Merci Jérôme. Et allez, nous pensons à toute l'équipe des Petits Matins.
Merci,
on vous retrouve avec bonheur dès lundi. Les Français ne veulent-ils plus travailler? De tout temps, notre pays a connu des secteurs qui manquent de bras et un chômage élevé. Le chômage a largement baissé. Et pourtant, les bras ne sont toujours pas là. Et alors RTL consacre un week-end de 3 jours complets à ces métiers qui ont du mal à recruter et à tous ces emplois à pourvoir. Dès ce matin, François Langlais nous dira que la crise sanitaire a de toute façon changé notre rapport au travail. Il sera 7h35. Nous vous proposerons à 8h20 un débat entre Sophie Le Menton, présidente du mouvement éthique, et David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Alors, flemmards ou pas motivés, ceux qui ne veulent pas rentrer sur le marché du travail, c'est en tout cas un problème bien français et nous attendons des réponses. Jérôme Fourquet, lui, l'un de nos sondeurs de référence, il dirige l'IFOP et il publie La France sous nos yeux aux éditions du Seuil. Il sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40. Enfin, nous vous proposerons, dans Laissez-vous tenter, une pléiade de rencontres. Je vous cite 3 stars. Adèle, Lady Gaga, Orelsan qui publie son dernier album Civilisation. Aujourd'hui même, vous l'entendrez dès 7h20 au micro de Steven Bellery. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la victoire des salariés d'Ascoval dans le Nord. La production d'acier ne sera pas délocalisée en Allemagne.
Le groupe allemand propriétaire voulait économiser de l'argent sur le dos de l'écologie en passant de l'électrique au charbon. On verra comment il a changé d'avis. À la une, également, ce patron dans le bâtiment en Moselle, obligé de refuser des chantiers faute de bras, il crée sa propre école de formation. On fera le point sur les principaux enseignements de notre sondage RTL. BVA Orange, l'extrême droite progresse, mais Emmanuel Macron reste favori. Et Monaco qui s'inquiète pour sa princesse Charlène, toujours aux abonnés absentes après ses problèmes de santé.
La politique, Olivier Bost.
Vous êtes bien réveillé. Oui. Emmanuel Macron veut dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, pas la semaine prochaine, je vous explique tout.
Allez, dès la fin du journal.
RTL Matin.
La formule avait fait mouche, polluer plus pour dépenser moins. Le groupe allemand propriétaire d'Ascoval, entreprise d'acier dans le Nord, envisageait de délocaliser la production outre-Rhin pour passer d'une usine électrique à une production au charbon, vu les prix de l'énergie. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Alors on a entendu hier sur RTL les salariés d'Ascoval dénoncer à la fois une casse sociale et une aberration écologique. Le groupe allemand a finalement décidé de renoncer.
Oui, après d'âpres négociations jusqu'à tard hier soir au ministère de l'économie et des finances et sous la pression de l'État français, Sarstal, le propriétaire d'Ascoval, a expliqué que finalement il ne délocalisera pas sa production en Allemagne. Les syndicats affirmaient effectivement que l'acierie française pourrait voir 40% de sa production temporairement transférée de l'autre côté de la frontière pour faire des économies. Tout se jouait en fait sur l'énergie. L'acierie française est 100% électrique et respecte les normes environnementales les plus strictes, mais de l'autre côté de la frontière, eh bien l'énergie est beaucoup moins chère, mais aussi beaucoup plus polluante, car le site allemand, c'est vrai, est en fait un haut fourneau alimenté au charbon. Au-delà de l'impact environnemental, l'impact social, il aurait été aussi très important, puisque certains salariés français se seraient donc retrouvés avec moins de travail à Saint-Saulve dans le Nord. Mais la question de fond, à savoir le prix de l'électricité en France pour les industries, ne disparaît pas. Ascoval devrait par ailleurs changer de fournisseur d'énergie dès l'année prochaine.
Merci beaucoup Arnaud Touche. Le groupe Carrefour, lui, veut en finir avec les prospectus papier. À partir de la mi-janvier, à Paris et à Lyon en tout cas, il ne fera plus imprimer 19 millions de catalogues pour nos boîtes aux lettres, pour éviter le gaspillage. La statistique est en effet implacable. 40% de ces papiers promos partent directement à la poubelle.
Comment les patrons font face à la pénurie de main-d'œuvre, c'est le dossier spécial ce matin sur RTL et d'ailleurs pendant tout le week-end.
Oui, on va partir ce matin dans la Meuse, secteur du BTP. Un entrepreneur a créé sa propre école de façadiers, tous ceux qui font les ravalements, les travaux d'isolation, parce qu'il n'arrivait tout simplement plus à recruter du personnel compétent, Samuel Goldschmidt.
Chez lui, l'équation est simple à poser et compliquée à résoudre.
Nous sommes actuellement 40 personnes dans l'entreprise, mais on pourrait multiplier par 2 par rapport potentiel de des chantiers qu'on pourrait avoir.
David Arslan, le fondateur de PFF Façade, refuse des chantiers. Il s'est donc résolu à créer sa propre école de formation.
On est même désespéré de pouvoir recruter des façadiers qualifiés. Jusqu'à présent, on s'est débrouillé tout seul. Nous avons formé nous-mêmes par le biais de l'insertion des personnes qui connaissaient aucune base de métier. Mais à un moment donné, on a dit qu'il faut qu'on formalise. Donc, on a créé PFF Academy suite à un réel besoin.
4 mois de théorie, puis 1 an sur le terrain.
Par exemple, là, ils sont en train de manier le marteau-piqueur qu'ils n'avaient jamais utilisé auparavant. Et puis maintenant, ils l'utilisent couramment, facilement.
Riza Simsik, le chef d'équipe, est leur formateur.
Ces jeunes, ils sont motivés pour travailler. Au début, ils ont un peu peur de monter, surtout quand c'est un peu compliqué l'échafaudage, quand c'est en hauteur, mais ils s'habituent vite. Moi, je pense qu'un an, ça suffit s'ils sont bien formés. Et ça dépend aussi de la volonté de ces gens, en fait. S'ils veulent vraiment rester, ils apprennent vite.
Tefe Sissoko est l'un des 8 membres de la première promotion.
On apprend très vite. Au bout de 2-3 semaines, tu vas commencer à avoir la connaissance des dents et ça va te plaire. Ne doute même pas, dès que tu fais ce métier, vraiment, tu ne vas pas avoir de manque de travail.
Ils ont tous signé une promesse d'embauche dès le début de la formation et l'école recherche activement 15 nouveaux candidats pour la prochaine promotion.
Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt. Sur la question donc de ces emplois non pourvus, comment les patrons font face, on vient de l'entendre. Comment la question d'augmenter les salaires se pose également. On en parlera aujourd'hui sur RTL et tout au long du week-end, vous le disiez, avec des reportages et de nombreux débats.
À 5 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote au premier tour.
Oui, selon notre sondage BVA pour RTL Orange, William Galibert, bonjour. Quelle est la dynamique? Vous nous résumez les principales évolutions depuis notre dernière enquête RTL du mois d'octobre.
Oui, et ce qui saute aux yeux, c'est l'extrême droite. Elle grossit encore de 4 points depuis notre dernière enquête du mois d'octobre. Plus 2 pour Marine Le Pen, autour de 19%. Plus 2 pour Éric Zemmour, autour de 15%. Réunis, ils rassemblent maintenant plus d'un tiers des électeurs. Mais individuellement, ils restent loin d'Emmanuel Macron, toujours stable, un peu en dessous de 30% des voix. Et derrière ce trio, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. À droite, chez les Républicains, il y a des débats télévisés, il y a un congrès qui doit bientôt trancher, mais les intentions de vote ne bougent pas. Xavier Bertrand, autour de 12%, devance toujours Valérie Pécresse et Michel Barnier. À gauche aussi, les eaux restent stagnantes. Yannick Jadot entre 8 et 9, Jean-Luc Mélenchon entre 7 et 8, Anne Hidalgo entre 4 et 5. Position désespérément figée pour le moment. Bien sûr, il faut simplement prendre ce sondage comme une photographie de l'instant et non pas comme une prédiction pour le premier tour du mois d'avril prochain.
Merci William Galibert, service politique d'RTL. À propos de cette campagne, à noter ce contretemps pour Éric Zemmour. La Royal Institution à Londres, où il devait s'exprimer devant la communauté française, a annulé sa venue. Il ira finalement dans une salle de conférence d'un hôtel Ibis. Le maire de Londres, Sadiq Khan, sans le citer, a laissé entendre qu'il n'était pas le bienvenu. L'actualité sanitaire, 20 000 cas de Covid à nouveau détectés hier en France. La cinquième vague monte. Emmanuel Macron, dans une interview chez nos confrères de La Voix du Nord, affirme ce matin que le confinement des personnes non vaccinées n'est pas nécessaire en France. En Allemagne, l'inquiétude pour le coup est plus grande. 65 000 cas hier, 3 fois plus donc que chez nous. Les autorités vont imposer des restrictions aux non vaccinés et rendre également la vaccination des soignants obligatoire.
Il est 7h07. Une pause dans un instant, protégez vos verres. Le GHB, la drogue dite du violeur, se répand visiblement à Paris.
RTL Matin.
RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Avec ce dossier spécial ce matin sur RTL, comment lutter contre la propagation du GHB?
La drogue du violeur, comme on l'appelle, ajoutée dans les verres des victimes à leur insu par de potentiels prédateurs. C'est arrivé à Julie récemment, écoutez.
On nous a offert des verres et j'ai commencé à me sentir mal. Et une amie, elle s'est vraiment sentie mal et tout de suite, elle s'est dit « on m'a droguée ». Et on avait vraiment l'impression comme si on était sous l'eau. J'ai surtout eu des moments un peu de confusion, moi. On est sortis de la boîte, donc on était toutes les trois, on se tenait. J'ai commencé à pleurer sans raison, je criais, des nausées pendant un bon moment, je tremblais aussi. Il y a un garçon qui était présent qui a appelé les pompiers.
Quand est-ce que vous avez commencé à reprendre vos esprits?
Un peu après 7h du matin. Et cette soirée-là, on a un peu lâché prise, on n'a pas forcément regardé quand on nous servait le verre et voilà.
Le témoignage de Julie, victime du GHB. La procureure de Paris, Laure Bécouot, affirmait mercredi sur RTL vouloir en faire une priorité. 9 plaintes ont déjà été déposées. Les témoignages se multiplient également sur les réseaux sociaux. On en parle avec la brigade RTL et Alice Moreno juste après ce journal à 7h15. Il faut savoir par exemple que le GHB est quasiment en vente libre, vous l'entendrez. En bref, est-ce le début de la désescalade au Bélarus, à la frontière polonaise? Des réfugiés ont été relogés et éloignés des points de passage. Plusieurs centaines d'entre eux ont été également rapatriés en Irak après avoir abandonné tout espoir de gagner l'Europe. Et puis ce chiffre dramatique au Brésil, la déforestation en Amazonie a augmenté de 22% en un an. 13 000 km² de forêt envolée. C'est la troisième année consécutive depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, accusé de laisser faire les pilleurs.
7h10, à Monaco, on continue de s'inquiéter pour la princesse Charlène.
Oui, elle ne participera pas aujourd'hui à la fête nationale de la principauté, Michael Lefebvre.
Oui, sur le rocher, la santé de la la princesse Charlène occupe les conversations. Les monégasques sont inquiets et un peu dans le flou.
Personnellement, je la trouve amaigrie, je la trouve pas en grande forme, quoi. Oui, on est inquiets.
Ça fait un moment qu'il y a des hauts, des bas. Le gouvernement communique petit à petit en nous disant que ça va mieux, que ça repart. Donc on ne sait pas depuis, on ne sait pas.
Rentrée d'Afrique du Sud lundi dernier, après 8 mois d'absence et une grave infection ORL, la princesse a déjà quitté la principauté pour un lieu de convalescence tenu secret. Elle ne saluera donc pas la foule aujourd'hui au balcon du palais princier.
On se doute bien qu'après ce qu'elle a traversé, elle avait besoin de repos, comme tout le monde. C'est un être humain, c'est une princesse, mais c'est un être humain. On souhaite qu'elle soit rapidement rétablie et qu'elle soit là l'année prochaine avec nous et avec sa famille.
Les pensées des monégasques vont aussi vers les enfants du couple, Jacques et Gabriella.
Les enfants l'attendent aussi, hein, mais elle est en convalescence, donc il faut respecter tout ça. Et c'est très bien qu'il y a le prince et ça l'occupe très bien aussi.
En ce jour de fête nationale, les monégasques seront donc plus soudés que jamais derrière le prince Albert et sa famille.
Merci Mickaël Lefebvre à Monaco pour RTL. Deux mots de sport. D'abord, les filles du PSG se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2-0 hier contre le Real Madrid. Et l'ouverture ce soir de la 14e journée de Ligue 1 de football. Monaco, justement, Monaco-Lille, c'est ce soir à 21h.
Les courses.
Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 15, le 14, le 11, le 5, le 12, l'As et le 6. La dernière minute, c'est le 5.
Normalement, le vendredi, c'est à Vincennes.
Et c'est en nocturne.
Et en nocturne.
Vous faites bien
on,
de
on,
dire.
On, va, on nous le confirme. Vive la France, vive la 5e République. On retrouve votre éditorial politique, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour.
Bah alors comme ça, Emmanuel Macron songe à dissoudre l'Assemblée nationale.
Oui, Emmanuel Macron pourrait dissoudre. Alors, pas la semaine prochaine, Yves, non, mais le lendemain de sa réélection.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh ben, c'est une très bonne information du journal L'Opinion. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, effectivement, certains réfléchissent à une dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Eh bien parce que l'année prochaine, l'élection présidentielle est très tôt dans le calendrier, les 10 et 24 avril. C'est tôt parce qu'après, les dimanches tombaient des jours fériés, le 1er et le 8 mai.
Oui.
La présidentielle est tôt, mais les élections législatives, elles, ne bougent pas. Ah. Elles sont programmées les 12 et 19 juin. Il y aura donc presque 2 mois pleins de campagne pour les futurs députés. Et c'est justement ce que veulent éviter des stratèges d'Emmanuel Macron.
Mais que craignent-ils avec une longue campagne ?
Eh ben, si Emmanuel Macron est réélu, bon, c'est la première condition, hein, oui. Ben, ça sera plus dur pour lui d'obtenir une majorité. Ils sont très nombreux à le penser chez En Marche et au-delà. Il y a donc le risque d'une majorité relative, faible, ou même d'une cohabitation dès le début du quinquennat, ce qu'avait suggéré Jean-Pierre Raffarin sur RTL il y a quelques jours. Pour résumer, si Emmanuel Macron gagne la présidentielle, ça n'est pas gagné derrière.
Oui.
Donc autant se donner tous les moyens d'avoir une Assemblée nationale pour réformer dès l'été et rapidement, d'autant qu'il y aura à faire, et notamment les retraites. Et ce genre de dossier, plus vite c'est réglé, plus ça passe facilement. Dans un quinquennat, tout ce qui n'est pas fait au début est impossible à faire plus tard.
Mais attendez, est-ce que le président a le droit de dissoudre l'Assemblée dès son élection ?
Alors, aucun problème là-dessus. Ah oui. Le journal L'Opinion a vérifié. La Constitution l'autorise, mais comment les Français le prendraient-ils ? C'est bien la question. Car ce qui est assez surprenant dans la Macronie, c'est cette volonté de toujours bouger les élections, comme s'il y avait un souci avec le suffrage. À l'exception des européennes, impossible pour le coup à bouger, Emmanuel Macron n'aura eu de cesse de vouloir triturer le calendrier. Souvenez-vous, il avait même envisagé de repousser les régionales après la présidentielle.
Oui.
Sauf que jouer avec le calendrier, c'est comme pour celui qui redécoupe la carte électorale. Généralement, il perd les élections. Ce vieil adage devrait encore faire réfléchir autour d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Olivier Bosse. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Et je vous rappelle que Alba Ventura reçoit ce matin le directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, Jérôme Fourquet, pour la publication de son livre « La France sous nos yeux ». C'est aux éditions du Seuil.
Yves Calvi, RTL Matin.
La procureure de Paris, Laure Bécouot, a annoncé sur RTL il y a 48 heures l'ouverture d'une enquête après avoir reçu 9 plaintes de personnes disant avoir été droguées à leur insu dans des bars et des discothèques. Depuis des semaines, de nombreuses jeunes femmes, mais aussi des hommes, pensent avoir été droguées au fameux GHB dans plusieurs villes d'Europe. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
D'abord, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que le GHB ?
Eh bien, figurez-vous qu'on le trouve en vente libre. La base du GHB, c'est en fait un solvant qui s'appelle le GBL, un composant de certaines peintures, de vernis et de toutes sortes de produits chimiques. N'importe qui peut en acheter dans des magasins spécialisés et ce solvant, une fois dans le corps humain, va se dégrader dans l'organisme et devenir du GHB. Le produit est en fait métabolisé. Il suffit pour cela de quelques gouttes dans un verre. Il devient alors extrêmement toxique. C'est un psychotrope qui fait effet en 15 à 30 minutes.
C'est donc impossible d'empêcher sa circulation ?
Techniquement, oui, même si un individu entre dans un bar avec du GBL, le fameux solvant, ce n'est pas un produit classé stupéfiant à ce moment-là. Et puis, c'est un liquide incolore et inodore qui peut être dissimulé très facilement.
Et il peut avoir de graves conséquences.
Oui, les effets sont proches de ceux d'un excès d'alcool, vertiges, vomissements, jambes flageolantes ou difficultés à s'exprimer. Il provoque une perte de contrôle et des trous de mémoire. Les victimes sont alors vulnérables à la merci d'agressions potentielles. Et bien sûr, elles ne sont pas à l'abri d'overdose. Julie, 23 ans, pense avoir été droguée dans une boîte de nuit huppée de l'Ouest parisien la semaine dernière.
On nous a offert des verres. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai surtout eu des moments un peu de confusion, moi. On est sorti de la boîte. J'ai commencé à pleurer sans raison. Je criais, des nausées pendant un bon moment.
Est-ce une drogue facile à détecter ?
Non, extrêmement difficile. En quelques heures, le sang de la victime n'en contient plus. La seule option, c'est l'analyse des cheveux. Elles sont en cours pour les plaignantes parisiennes. Les résultats seront connus dans quelques semaines.
Merci beaucoup Alice Moreno pour toutes ces explications. Dans un instant, RTL événement avec Aurel San. Le rappeur normand sort son nouvel album intitulé Civilisation avec un premier extrait intitulé L'odeur de l'essence. Aurel San a accordé un entretien à Stephen Bellery. Bonne journée sur RTL.
RTL matin. RTL événement.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'autodétruit.
Aurel San publie aujourd'hui son nouvel album baptisé Civilisation. Le rappeur a 39 ans, rare dans les médias. Hein. Il s'est confié à vous, Stephen Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
L'odeur de l'essence, dévoilée mercredi midi, fait grand bruit.
Oui, 3 millions de vues déjà pour le clip de ce brûlot politique. Aurel San, de sa plume acerbe, décortique notre société sans ménagement. Comment ce titre est-il né ? Réponse du chanteur de Basique.
Il y a quand même un truc en ce moment, et puis on arrive en période électorale et tout, il y a un côté où on a l'impression que il y a un climat de tension, quoi. Enfin, je veux dire, je ne l'invente pas, c'est tu regardes la façon dont les gens se parlent dans les médias, la façon dont ça débat sur les réseaux, même au quotidien, je le sens, en fait. Mais pour moi, c'est un climat, en fait. Bah, évidemment, il y a eu des manifs dans tous les sens. Moi, ce que je voulais faire, c'était pas forcément amener un programme, évidemment. Plus ramener le truc à un truc un peu plus humain, tu vois. Je trouve qu'il y a un climat qui est de tension, qui n'est pas forcément non plus la vérité, tu vois.
On croit plus rien, nos contradictions, l'école apprend l'individualisme. Est-ce que c'est votre hymne au vivre ensemble, au final, cette chanson, avant le crash ?
C'est plus le constat, avant de se dire, putain, faudrait qu'on soit plus solidaires et au moins qu'on ait conscience qu'on vit avec d'autres gens. Cette chanson, pour moi, c'est plus ce moment où tu te dis, oula, ça va mal, tu fais un peu la liste des défauts, c'est pour ça que j'ai mis au milieu de l'album. Mais c'est sûr que je trouve qu'on pourrait un peu plus au moins s'écouter, tu vois. En vrai, je trouve qu'en ce moment, on est dans une période où au moins on parle, quoi. Il y a des débats, tu dis un truc, il y a quelqu'un d'autre qui dit le contraire, voilà. Sauf que je crois qu'on n'a pas l'habitude encore.
Comment vous faites pour la regarder droit dans les yeux, l'époque ?
Je crois que, bizarrement, c'est le fait d'être un peu en retrait. Genre, j'écris des morceaux où je parle des médias alors que je regarde jamais la télé. En fait, je ressens beaucoup l'époque par rapport aux gens avec qui je discute. J'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien les gens, j'aime bien parler. Par exemple, je vais parler avec ma mère, elle va pas avoir le même ressenti qu'un pote à moi. Ou... Moi, je me vois comme un narrateur, en fait. Je me vois même pas vraiment comme un acteur de la société dans ma position sur l'album, tu vois. Genre, en gros, dans ma tête, si j'ai choisi de faire de la musique, c'est un peu pour fuir tout ça, toutes ces responsabilités, tout ce questionnement qu'on peut avoir par rapport à la société. Mais c'est vrai que l'album montre clairement que je me sens plus concerné par la société, du coup.
Alors, les choses sont claires, hein. Stephen Aurel San est devenu l'une des plus grandes stars de la musique.
Oui, un phénomène de société, sa série documentaire sur Amazon Prime a créé une excitation autour de son retour. Son catalogue enregistre depuis la mise en ligne plus d'un million d'écoutes par jour. Une énorme tournée démarre en janvier. 4 dates à Paris-Bercy sont déjà complètes. Aurel San savoure humblement.
C'est vrai qu'en termes de succès, c'est fou, quoi. En fait, ce qui me fait trop plaisir, c'est qu'il y a les gens de ma génération qui me suivaient depuis le début, qui sont à peu près encore là. J'ai l'impression que j'ai touché un peu des générations un peu avant, grâce à des morceaux, genre des fêtes de famille, que les gens sont plus rentrés dedans. Et il y a des jeunes encore, où ça commence peut-être à 12 ans, tu vois, qui découvrent. C'est incroyable, je suis trop content, c'est vraiment fou, ça me fait plaisir, en fait.
Le mot star, vous l'assumez, rappeur star, ou pas du tout ?
Ouais, si, je l'assume. Après, en vrai, on n'est pas dans les années 80. Évidemment, je veux dire, je suis une star, j'oserais, c'est rien que de le dire, ça me fait bizarre. Je veux dire, je suis connu, c'est sûr. je sais que ça peut s'arrêter à tout moment. Après, le mot star, il est marrant, c'est vraiment genre Madonna, quoi.
Vous cultivez une forme de discrétion, c'est votre côté normand, ça ?
C'est vrai que je cultive une forme de discrétion. J'ai pas envie de faire passer ma vie perso avant ma musique. Moi, je pensais que, genre, à mon premier album, en étant connu, ma vie allait être genre les vacances, et tu vois. Mais non, en fait, il y a toujours du boulot.
Je suis clairement pas un vrai rappeur, entend-on. Quel genre de rappeur vous êtes, au fond ?
En fait, j'ai quand même un côté un peu auteur, tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'aime bien me lever le matin, me balader dans la campagne pour écrire, ce qui n'est pas le cliché. Quand les gens s'imaginent le rap, ils pensent que c'est hyper instinctif et machin, alors que moi, je bosse pas du tout comme ça, quoi.
À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre.
Civilisation, le quatrième album d'Orelsan paraît aujourd'hui.
On se comprend plus, donc je dis plus rien. J'ai 16 ans.
Et plus de confidence d'Orelsan à 9h, laissez-vous tenter avec vous, Steven Bellery. Merci.
À tout à l'heure.
Il est 7h23.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On retrouve avec plaisir notre pépite musicale du jour. Quel est le programme ?
Une nouveauté ce matin. On va découvrir ensemble une chanson de l'album On lâche pas l'affaire, album de Benabar qui sort aujourd'hui. Mm-hmm. C'est son deuxième album en un an. Benabar partage sa vie aujourd'hui entre Paris et le Vaucluse où il retrouve son ami, le chanteur Renaud, qui vit quasiment à l'année à Lille-sur-la-Sorgue. Et quand Benabar est arrivé dans le coin, ben Renaud lui a présenté ses potes, notamment deux Corses qui ont un resto. Benabar et Renaud s'y retrouvent souvent.
Je voudrais être là-bas.
Ben voilà, on est autant déprimés l'un que l'autre, raconte Benabar avec son humour. Alors on se remonte le moral chez les Corses. On dit du mal des gens qui vont bien. Ces moments passés à refaire le monde avec son ami Renaud lui ont inspiré à Benabar une nouvelle chanson qui a justement pour titre « Chez les Corses » et qui est très Benabar, c'est-à-dire remplie d'humour et de tendresse. Et Renaud a accepté de la chanter avec lui. C'est le duo surprise de cette fin d'année et c'est notre pépite du jour. « Chez les Corses » par Renaud et Benabar.
Salut, content de te voir. À vrai dire, moi ça va pas trop. Je déprime, je vois tout en noir, plus très loin du bout du rouleau. Pas sûr d'être mieux placé pour te remonter le moral. Moi aussi, je suis dévasté par cette vie dont je pense que du mal. La guerre, le frelon asiatique, déception sentimentale, misère, changement climatique, l'existence en général. C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez bien, on va manger chez les Corses pour tuer le temps. Légitime défense, on dira du mal des gens qui disent du bien de l'existence. Y a tant de raisons de pas aller, d'avoir le moral au plus bas.
Des raisons de se lamenter. Si t'en as plus, j'en ai pour toi.
On les aime, ces deux dépressifs,
oh là là,
ils nous
oui.
font sourire. Voilà. Chez les Corses, duo de copains qu'on découvre donc aujourd'hui dans le nouvel album de Benabar. Renaud, lui, de son côté, a pratiquement terminé l'enregistrement d'un disque de reprise de chansons françaises du Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy, Hugo Frey ou encore Yves Montand. Ça fait des années que Renaud parle d'un album de reprise,
oui.
Et c'est fait. Et petite info, le disque sortira en mai prochain pour les 70 ans de Renaud.
C'est une excellente nouvelle.
On va manger chez les Corses pour tuer le temps. Légitime défense, on dira du mal des gens qui disent du bien de l'existence.
Merci beaucoup Anthony, on se retrouve lundi et à tout moment sur l'appli RTL. On était heureux de passer ce moment grâce à vous avec Renaud et Benabar. À lundi.
Main dans la main, ça sert à ça les copains, parce qu'on a tous des plaies des bosses. Bien, on va manger chez les Corses
pour arroser le divorce.
Viens, on va manger chez les Corses. Plus la peine de bomber le torse. Viens, on va manger chez les Corses.
Putain de monde cruel, atroce. Viens, on va manger chez les Corses.
C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez, viens. On va manger chez les Corses pour tuer le temps.
légitime défense. On dira du mal des gens qui disent du bien de l'existence.
Je sais pas pourquoi on a le sourire depuis 2 minutes 30. Hein. Bon, on veut bien aller manger chez les Corses. Alors nous, on aura deux Corses hein, chez nous lundi. Ce sera un RTL événement puisque les Dutron, père et fils, seront avec nous dans ce studio. Et c'est un grand plaisir. Bon, bah, on vous retrouve pour votre météo dans un instant. C'est grisounet, hein, on a bien fait de sourire en attendant.
C'est bon en Corse.
C'est bon en Corse, parfait.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Laurent Ruquier, ses grosses têtes entre 15h30 et 18h, c'est l'assurance de passer un bon moment, ça vous le savez, même en lisant des tweets et des commentaires assez désobligeants sur les sociétaires.
J'ai un commentaire négatif là, terrible, de stouf sur Twitter. Est-ce que quelqu'un peut dire à Sébastien Thoen de se taire un petit peu dans les grosses têtes? En plus d'être insupportable, il n'apporte rien à l'émission à part de dire n'importe quoi. Plaza, pourquoi tu l'appelles stouf? Pourquoi t'as pris stouf comme nous on prend Ploutz, Non mais sérieux, on voit que c'est toi, un drapeau arc-en-ciel, une tête de con, c'est toi.
Ce qui compte c'est que moi je n'y prête pas attention.
Oui mais un jour vous allez lire.
Mais je les ai lus, tous les jours j'en reçois des gens.
Et vous m'avez gardé quand même.
Mais oui, oh, maintenant au moins on parle de toi.
Pendant des années j'ai reçu des gens qui me disaient virer Bénichou.
Oui enfin on vous a pas demandé de le tuer non plus.
C'est un peu l'extrême.
On les retrouve dès 15h30 avec grand plaisir. À la Saint-Tanguy-Tangri, Louis Boutin.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai dans la moitié nord, pas dans le sud. Hein. Je disais encore, ça va être beau. Effectivement, il y aura beaucoup de soleil. Mais c'est vrai sur toute la moitié sud où, après dissipation des brouillards matinaux, eh ben, on va retrouver du grand soleil. Oui, de l'Aquitaine aux Alpes, des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Ça sera même souvent du grand ciel bleu. Oui, dans la moitié nord, pendant ce temps-là, ça sera beaucoup plus gris, nuageux, accompagné de brouillards ce matin. Et ça se lèvera plus ou moins cet après-midi. Plutôt moins près des frontières du nord-est, plutôt plus près de la vallée de la Loire, sud de la Bretagne ou encore dans les Vosges, en région parisienne. On comptait plutôt sur les nuages. Et puis côté température, ben on a dégelé hein, ce matin dans le centre, dans le nord-est. Cet après-midi, 8 à 11 degrés seulement de la région Rhône-Alpes nord-est. C'est un peu comme hier, 10 à 14 dans les autres régions et 16 à 20 près de la Méditerranée.
Merci Louis, 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 19 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane.
Et les temps sont durs pour les fumeurs de gitane ou autres. Plus question de s'en griller une en attendant les enfants à la sortie des classes. En tout cas à Bordeaux, qui vient d'interdire la cigarette autour des écoles primaires. Une initiative de la mairie écologiste Denis Grandjou.
Oui, Pierre Urmic souligne que cette mesure s'inscrit dans un vaste projet baptisé la rue aux enfants. La première étape était, il y a quelques semaines, d'interdire la circulation automobile devant les établissements scolaires.
Et là, nous avons voulu franchir une étape supplémentaire. Il est interdit de fumer dans un périmètre de 50 mètres autour de l'entrée de ces écoles.
Cette maman qui vient chercher son garçon applaudit des deux mains la mesure du maire de Bordeaux.
C'est radical. Aux abords des écoles, c'est comme dans les hôpitaux. C'est pourquoi pas.
En revanche, pas du tout le même son de cloche pour ce papa, fumeur, à qui j'apprends qu'il risque désormais d'écoper d'une amende de 11 euros s'il ne respecte pas l'arrêté municipal.
Mais on est en extérieur, on est quand même libre, on fait ce qu'on veut. C'est aéré, c'est trop radical. Qu'il y ait des parents qui ne l'approuvent pas, je le comprends, mais là il faut qu'ils le comprennent aussi, qu'il s'agit aussi de la santé de leurs enfants. Pour moi, c'est pas une mesure d'interdiction, c'est une mesure de protection.
Et après l'interdiction de fumer devant toutes les écoles primaires de la ville de Bordeaux, le maire et son équipe réfléchissent désormais à interdire purement et simplement la cigarette aux abords des collèges et des lycées de la ville.
Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL.
Eh ben ça va nous faire du débat tout ça. À 5 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron reste le grand favori.
Hein. Oui, c'est ce qui ressort de notre sondage BVA pour RTL et Orange. Le chef de l'État, pas encore candidat, arriverait en tête du premier tour dans tous les cas de figure, avec un score compris entre 26 et 29%. Dans le même temps, l'extrême droite progresse 4 points de mieux si on cumule les intentions de vote pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, toujours pas déclaré lui non plus. Précision d'Adélaïde Zulfikar-Pasic, la directrice de BVA Opinion.
Alors que les candidats à l'investiture LR rivalisent de propositions sur les thématiques sécuritaires et d'immigration à l'approche du Congrès, eh bien il semblerait que cette séquence bénéficie en fait directement à l'extrême droite qui progresse de 2 à 4 points selon les configurations et sort renforcée de cette séquence puisqu'au final, dans l'hypothèse d'une candidature simultanée de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, eh bien ils recueilleraient à eux deux un tiers des suffrages, ce qui place effectivement l'extrême droite à un niveau très élevé par rapport à notre dernière mesure il y a un mois.
La directrice de BVA Opinion dans les petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. C'est l'information de la nuit. Ascoval fait machine arrière. Après une réunion hier soir au ministère de l'économie, le propriétaire de l'usine de Saint-Saulve dans le Nord renonce finalement à délocaliser une partie de sa production en Allemagne. Les hauts fourneaux allemands au charbon revenaient moins chers que les fours électriques français, mais ils sont bien sûr extrêmement polluants. On vous parle depuis ce matin des métiers en tension sur RTL et on va continuer tout le week-end. Parmi ces professions en pénurie de main-d'œuvre, il y a bien sûr l'hôtellerie-restauration et les salaires trop bas sont souvent mis en cause. Hier soir, le patronat a proposé une augmentation moyenne de 10,5%. Écoutez Didier Chenet du syndicat GNI Restauration.
Il faut savoir que notre grille de salaire remonte à 2018. On a un rattrapage important à faire, c'est ce que nous allons faire, et donc une augmentation substantielle de la grille de salaire. Au début de l'année, nous irons à d'autres négociations qui concernent les conditions de travail. Nous travaillons les week-ends, nous travaillons les jours fériés. Comment rendre moins difficile cette vie professionnelle par rapport à une vie privée ?
Didier Chenet, joint par Arnaud Touche.
Il n'y aura pas de confinement des personnes non vaccinées chez nous, hein, comme ça se pratique depuis quelques jours en Autriche.
Cette mesure n'est pas nécessaire en France, c'est ce que dit Emmanuel Macron dans un entretien à La Voix du Nord. En revanche, le chef de l'État est plus prudent sur le rappel de vaccins pour tous. Il attend, dit-il, l'avis des autorités sanitaires. Pour l'heure, cette troisième dose est réservée aux seniors, mais encore faut-il qu'ils soient vaccinés. Près de 13% des plus de 80 ans n'ont reçu aucune dose et pas sûr qu'on arrive à faire mieux quand on écoute Max, un retraité des Côtes d'Armor. Il a 82 ans.
Il s'agit d'une manipulation génétique qui est toujours en phase d'expérimentation, en fait. Hein. Donc, je ne suis pas un cobaye, moi. C'est ahurissant. J'ai plus peur des hommes politiques que du Covid.
Au jour le jour, vous prenez des précautions.
Quelles précautions je devrais prendre ? Dans la mesure où ni ma femme, ni moi, ni ma fille, etc., on est vacciné, on est approvisionné, puisqu'on n'a pas de passe. On ne peut pas aller dans les restos, etc. C'est un choix, hein.
Max au micro RTL de Nicolas Bobby. À l'étranger, un signe de plus de l'extrême tension entre Washington et Pékin. Joe Biden n'exclut pas un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver. Les États-Unis n'enverraient pas de représentants officiels, mais les sportifs, eux, pourraient tout de même participer aux épreuves. Dans le même temps, l'inquiétude grandit autour de la disparition de Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise qui a accusé un ancien dirigeant du régime d'agression sexuelle. On est sans nouvelles depuis le début du mois. Plusieurs grands noms du tennis se disent choqués. La Française Alizée Cornet a été la première à poster un message sur les réseaux sociaux.
La priorité absolue à l'heure actuelle, c'est de savoir si Shuai Peng va bien. Et je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir cette info. Je connais des joueuses qui ont essayé de la joindre mais qui n'ont pas réussi. C'est inquiétant en fait, parce qu'on se demande ce qui se passe. Il faut effectivement que ça remonte le plus haut possible dans la hiérarchie pour nous rassurer. Il ne faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. On ne peut pas la laisser tomber, quoi. Ce n'est pas possible humainement.
Alizé Cornet au micro RTL d'Isabelle Langer.
Ben voilà, c'était le Tout Info. Nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et nous allons prendre la mer avec les pêcheurs à la ligne de la mer d'Iroise.
Rendez-vous est pris. Merci Isabelle Choquet. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
RTL consacre un week-end complet à ces métiers qui ont du mal à recruter et à tous ces emplois à pourvoir. Nous allons faire un point d'analyse de la situation avec vous dans un instant.
Oui, absolument. Un monde de fous avec des candidats qui cherchent des postes et qui n'en trouvent pas et des postes qui cherchent des candidats et qui n'en trouvent pas.
Ben voilà.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ben vous nous expliquez tout cela dans un instant sur RTL. C'est Langlais Co.
Yves Calvi.
7h38, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
La pénurie de ressources humaines s'étend avec la reprise. Oui. Sait-on exactement combien il y a de postes non pourvus ?
Écoutez, avant la crise sanitaire, on disait 300 000 environ. Bon, c'est tout à fait vraisemblable que ce chiffre ait doublé. Dans le secteur de la restauration, des aides à domicile, de l'informatique, de la construction, au sens large d'ailleurs, hein, et même de l'industrie aéronautique qui repart à fond. 44% des PME se disent confrontés à des difficultés de recrutement.
Mais pourquoi ce chiffre a-t-il autant progressé, d'autant plus qu'on nous annonce au même moment que le chômage baisse ?
Écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des pays ont subi, pendant la crise sanitaire, une forte rétraction de leur population active. En France, sur l'année 2020, on a perdu en moyenne 200 000 personnes. Phénomène classique, hein, lors d'une crise, un certain nombre de personnes ne cherchent plus de travail parce qu'ils pensent qu'ils n'en trouveront pas. Et d'autant que s'ajoutait cette fois-ci la crainte de la contagion. Et puis ils reviennent lors de la reprise. Mais oui, cette fois-ci, la reprise a été tellement forte, tellement rapide, qu'elle a précédé le retour des découragés. Et ça explique en partie les pénuries. Autre facteur, certains sont restés au chômage partiel, alors qu'en période normale, ils auraient été disponibles sur le marché du travail. C'est autant de candidats en moins. Enfin, il y a eu des transferts d'un secteur à l'autre. Près de 200 000 personnes ont quitté l'hôtellerie-restauration pour d'autres activités. Ça explique le trou dans les restaurants.
Excusez-moi, mais tout ça sont des phénomènes transitoires.
Pas sûr, Yves. Ah bon ? Détrompez-vous. Les transferts d'un secteur à l'autre, c'est pas réversible forcément. Quand vous avez découvert que vous pouvez avoir vos soirées et vos week-ends, est-ce que vous redevenez serveur en horaire décalé ? Pas sûr. Plus largement, c'est l'économiste Daniel Cohen qui me disait ça tout récemment, l'épidémie et le confinement semblent avoir eu un peu le même effet que mai 68 sur certaines populations. Et ils ont fait découvrir que il n'y avait pas que le travail dans la vie. Du coup, les arbitrages ne sont plus forcément les mêmes. Moins d'argent peut-être, mais aussi plus de liberté avec moins de travail.
Et nos 3 millions de chômeurs, alors pourquoi n'occupent-ils pas ces emplois ?
Ça, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'on vient d'apprendre ce matin que le taux de chômage n'avait pas bougé, 8,1%, alors que justement ces postes non pourvus sont importants. Si on accepte les faux chômeurs, qui choisissent de ne pas travailler, il y a d'abord un problème de déqualification pour quelqu'un qui est resté sans emploi longtemps. Il n'est plus employable sans une aide personnalisée que bon nombre d'entreprises ne peuvent pas fournir. Et puis, il y a aussi les freins à la mobilité géographique. Les enfants à l'école, ça vous enracine dans une ville, ça vous empêche de changer de région pour trouver du travail. Tout comme la question du logement. Du coup, chômeurs et emplois non pourvus peuvent coexister.
En clair, vous nous dites qu'il faut se préparer à des pénuries de main-d'œuvre durables.
Oui. Oui, parce qu'en plus, il y a une tendance de fond très puissante qui apparaît, c'est le vieillissement démographique qui se traduit par la diminution du nombre d'actifs. Il y a 25 ans, oui, le nombre d'actifs augmentait de 2 à 300 000 par an en France. Et aujourd'hui, la population au travail, c'est à peu près la même que celle de 2017, il y a 4 ans. Et puis un jour, le nombre d'actifs va diminuer chez nous, comme c'est déjà le cas en Allemagne, en Italie. Il va manquer de bras pour faire tourner l'économie de nos pays. Il faudra donc des carrières plus longues et aussi de l'automatisation pour remplacer les hommes manquants par des machines.
Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur l'application RTL pour réécouter vos chroniques quotidiennes, mais aussi pour découvrir votre podcast hebdomadaire exclusif. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Que recevez-vous Alba ce matin ?
Jérôme Fourquet, politologue, expert en géographie électorale, directeur du département Opinion de l'IFOP. Comment la France s'est transformée en 40 ans ? C'est le sujet de son livre « La France sous nos yeux » aux éditions du Seuil, coécrit avec Jean-Laurent Casselli. Vous allez voir, c'est passionnant.
Rendez-vous avec Jérôme Fourquet sur RTL dans un instant et Alba Ventura.
RTL Matin. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h44. Alba Ventura, vous recevez ce matin le directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP, Jérôme Fourquet.
Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Alors votre précédent livre, L'Archipel français, est un énorme succès. Vous mettiez le projecteur sur cette France divisée qui a vu monter les communautarismes. Cette fois, dans La France sous nos yeux, vous avez voulu, avec Jean-Laurent Casselli, montrer la métamorphose du pays des années 80 à aujourd'hui. Tout a changé en 40 ans, Jérôme Fourquet. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas le même pays ?
Oui, c'est ce que nous appelons la France d'après. C'est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui diffère quand même très sensiblement de ce que nous avons connu jusqu'au début des années 80. Alors, il y a des changements de toute nature. Et notamment, on commence dans le livre par des changements fondamentaux en matière économique. Nous sommes passés d'une économie qui était organisée autour de la production, l'industrie, l'agriculture, la pêche, à une économie qui tourne, dans tous les sens du terme, pour et autour de la consommation, du tourisme et des loisirs. S'il fallait retenir un moment charnière, parce qu'on ne peut pas dater ça au carbone 14, mais un moment charnière de bascule, ce serait le printemps 1992. Le 31 mars 1992 fermait l'usine de Renault-Billancourt, la grande citadelle ouvrière. Et 12 jours plus tard, le 12 avril 1992, c'était l'ouverture, l'inauguration d'Euro Disney. Et donc on voit comment on est passé d'un modèle à un autre, et tout ça a eu des conséquences en cascade sur la sociologie, les professions, les métiers qui existent, sur les paysages, sur les modes de vie.
J'allais dire, c'est un pays où il n'y a plus de champs et il n'y a plus d'usines aussi, c'est
alors,
ça
là, il reste des champs et des usines, mais si on reprend la question industrielle par exemple, et le Covid a bien fait prendre conscience aux Français de l'ampleur de la désindustrialisation, si on reporte un peu en arrière, mais pas très loin derrière nous, en 2008, précédente crise économique, entre 2008 et aujourd'hui, c'est 950 sites industriels de plus de 50 salariés qui ont été rayés de la carte. En une dizaine d'années.
Et à la place ?
Et à la place, on a beaucoup d'entrepôts, plus de 4000 grands entrepôts logistiques, des activités touristiques, On a vu par exemple comment à Carmo, la mine de charbon à ciel ouvert a été transformée en gigantesque parc d'attractions. Pareil en Lorraine, le parc des Schtroumpfs, qui s'appelle maintenant Walligator, a été construit sur les ruines du plus grand laminoir de France. Amazon, en général, s'implante sur des anciens sites industriels pour toucher les primes au retour de l'activité. Et puis, dans de nombreux territoires qui ne sont pas touristiques, eh bien, que reste-t-il quand l'usine a fermé ? Eh bien, souvent, c'est l'hôpital et la grande surface du coin qui deviennent les premiers employeurs.
C'est ça, parce qu'on a l'impression d'avoir une France de pavillons, d'entrepôts, de zones commerciales et de ronds-points.
Mais tout à fait.
On a l'impression que c'est ça aujourd'hui, la France. C'est tout ça qui a poussé, on va dire.
Tout à fait. Donc cette économie qui tourne autour de la consommation, un des acteurs moteurs de ce changement, c'est bien évidemment le secteur de la grande distribution. Si on prend le cas, et ce ne sont pas les plus puissants, le cas d'Intermarché. Intermarché comptait 300 magasins en 1980. Ils en ont 1800 aujourd'hui. Il y a un Intermarché tous les 17 kilomètres en France. Et pendant la décennie 80-90, là où leur implantation était la plus active, ils ont ouvert la bagatelle de 2 magasins par semaine en moyenne pendant 10 ans.
Alors ça, c'est flagrant, parce que ce qui a changé, effectivement, on le voit dans votre livre, c'est qu'on veut consommer plus vite et plus près.
Alors, la première étape, bien évidemment, c'est la grande distribution, avec ces grandes zones commerciales qui se mettent en périphérie. Et puis maintenant, il y a le e-commerce qui a connu encore un coup de fouet avec les périodes de confinement et la livraison à domicile qui va complètement révolutionner ce secteur et créer aussi de nouveaux métiers. On parle du larbina, nous, des applis, ces gens qui, pour un clic, eh bien, vont livrer dans le quart d'heure les courses que vous avez faites. Alors, historiquement, dans la grande distribution, vous faisiez vos courses. Ensuite, vous avez commandé, vous venez les chercher dans le drive. Et puis maintenant, summum, on va se faire livrer. Et donc tout ça reconfigure complètement nos modes de vie, nos paysages et notre sociologie.
C'est cette France-là que vous décrivez, vous dites, vous parlez de la France Stéphane Plaza, Netflix, Uber Eats. Ben c'est ça qu'on vit aujourd'hui
En grande partie, et vous voyez que dans cette société qui accorde une place, et on peut le comprendre, tout à fait décisive au cadre de vie, au mode de vie, au confort individuel, bien la maison individuelle fait partie de ce qu'on appelle, nous, le modèle Plaza majoritaire. Et on comprend que la ministre du Logement, quand elle a dit qu'il va falloir arrêter avec la maison individuelle avec jardin, eh bien, elle heurte un rêve, un imaginaire français qui est très, très ancré.
Vous parliez des loisirs tout à l'heure. Il y a un exemple frappant dans votre livre, l'exemple du département du Loir-et-Cher.
Oui.
Que se passe-t-il dans le Loir-et-Cher ?
Il y avait une chanson célèbre, mais historiquement, en matière touristique, la locomotive de ce département, c'est Chambord. 1 million d'entrées en moyenne, le château de Chambord. Et puis, depuis quelques années, Chambord a été surclassé par un autre site touristique du Loir-et-Cher, qui est le zooparc de Beauval. Et quand est-ce que la bascule s'est faite ? Quand nous avons reçu 2 pandas prêtés par les Chinois, dont Brigitte Macron est la marraine. Et donc, depuis quelques années, le zooparc de Beauval fait 500 000 entrées de plus que Chambord. Et donc, on voit comment tout ça se transforme et se reconfigure avec des référentiels culturels qui ont complètement muté.
Mais ça veut dire que c'est un manque d'exigence culturelle ou c'est une distance vis-à-vis d'une France encroûtée, puisque le château qui représente... C'est quoi l'explication ?
Alors, vous voyez bien que la culture traditionnelle a de beaux restes
heureusement.
Mais qu'on a toutes des couches culturelles successives qui se sont sédimentées au cours de ces décennies et qui ont changé profondément nos référentiels. Je parlais tout à l'heure de Disney. Euro Disney, si l'on prend les moins de 35 ans, donc qui sont nés à peu près au moment de l'ouverture, donc dans cette France d'après, 3/4 d'entre eux en France sont déjà allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Donc on parle beaucoup d'identité aujourd'hui. L'identité, ce sont des valeurs et des expériences communes. Et bien 3/4 de la France d'après a accompli le pèlerinage chez Disney. Donc on voit comment aussi notre société s'est, par tous les ports, complètement américanisée en l'espace de quelques décennies seulement.
Et alors, nous sommes 3 ans après les Gilets jaunes. Est-ce qu'on constate aussi dans votre livre, c'est cet écart qui se creuse finalement entre les classes populaires et sa composition, puisqu'il y a plusieurs classes populaires, et ce que le président a appelé les premiers cordés. L'écart est de plus en plus grand.
Alors, on a parlé tout à l'heure de la grande distribution. Et le modèle de la grande distribution, c'était l'hypermarché qui s'adressait à toutes les clientèles. Et ce dont on parle dans ce livre, c'est comment il y a eu un effet de sablier qui s'est créé avec des offres premium pour les classes les plus favorisées, et puis le développement de tout ce qu'on a appelé un marché secondaire avec le hard discount, avec des marques comme Dacia pour l'automobile, c'est-à-dire un accès à la société de consommation, mais avec des offres un peu moins prestigieuses pour permettre à toute une partie de ce bas de la classe moyenne qui est en train de décrocher de suivre le rythme, comme elle le peut, de la grande consommation. Et pour moi, ce décrochage en termes de capacité à consommer est le terreau psychologique qui a présidé au déclenchement de la crise des Gilets jaunes. Beaucoup de gens nous ont dit avant, on appartenait à la classe moyenne, on faisait nos courses chez Leclerc, maintenant je vais chez Lidl. Et donc, c'est un déclassement insupportable. Et dans une société qui...
Où je m'équipe sur le bon coin.
Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, l'économie de la débrouille, les vides-greniers, le bon coin, la chasse au bon prix. Et dans une société qui croit plus au grand soir, ni plus vraiment en Dieu, le bonheur, c'est ici et maintenant. Et c'est ce que je peux payer à mes enfants, ce que je peux m'offrir, qui définit la place que j'occupe dans la société.
Mais... Pardon, à vous entendre, l'idée qui se répand, c'était mieux avant.
Alors, on comprend dans ce...
Et ça fait le lit de l'extrême droite, et notamment d'Éric Zemmour.
Alors, dans ce contexte, on comprend que beaucoup de Français, dans nos sondages, nous disent « je ne reconnais plus mon pays, je ne me sens plus chez moi comme avant ». Et ce n'est pas uniquement du fait des kebabs et des voiles, des femmes voilées qu'ils peuvent croiser dans la rue. C'est aussi parce que, objectivement, la société, le pays, nos paysages se sont considérablement transformé en quelques dizaines d'années. C'est un peu comme si vous repreniez le dimanche vos albums de famille et vous regardiez les photos d'il y a 15 ou 20 ans, vous disiez « Oh, on a quand même drôlement changé, je ne reconnais plus vraiment tous ces quartiers, etc. etc. » C'est ce sentiment de dépossession assez confus que ressentent beaucoup de Français. Et c'est ça aussi qui explique le succès de certaines offres politiques aujourd'hui.
En tout cas, merci beaucoup Jérôme Fourquet. La France sous nos yeux, c'est vraiment passionnant. Cette société qui a tellement changé en 40 ans, c'est vrai. Vous l'avez écrit avec Jean-Laurent Casselli et c'est aux éditions du Seuil.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Jérôme Fourquet, puisque dans quelques instants, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière. Hein, oui, je vous vois dubitatif. Vous avez raison.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
7h55, bonjour Philippe.
Bonjour.
Jérôme Fourquet, notre invité ce matin, est resté pour vous écouter.
Hein. Et il a bien raison, car c'est en se frottant au plus grand qu'on progresse. Vous êtes politologue, donc déjà bonjour cher confrère. Ravi que l'interview se soit bien passée, car on m'a dit en off, moi je dis tout en off, hein, je balance, Jérôme Fourquet est passionnant, mais il ne parvient pas à garder son sérieux. Il est constamment dans la déconne, un jeu de mots, une charade, un accent, un chabit. Parfois il s'égare dans la gaudriole. Ça n'a pas été le cas ce matin, non. Merci pour nos auditeurs. La France a profondément changé ces 40 dernières années, vous le disiez. Pas autant que Sylvie Vartan, mais pas mal quand même. Sylvie qui n'a pas pris une ride, elle en a même perdu. C'est le thème du livre de Jérôme, hein, l'américanisation de la société. Quand on a vu Sylvie Vartan à RTL il y a 15 jours, on a fait « Nom de Zeus, nous sommes en 1974, Marty ! Sylvie a 29 ans !» Eh bien non, on est en 2021, mais Sylvie a dû trouver une crème de nuit très efficace. Bon, écoutez, je ne vois que ça.
Je vous en prie, parlons plutôt politique. L'IFOP a interrogé les Français sur la perspective de la qualification au second tour d'Éric Zemmour. Cela dit, il semble stagner dans les sondages en ce moment.
Oui, oui, c'est une bien triste nouvelle pour nous tous qui soutenons l'enfant chéri de la station, le frérot. Ah, s'il était encore là, on serait sûrement devant ces bolchots de France Inter, croyez-moi. Bref, notre Éric repasse derrière Marine Le Pen et on a bien du mal à l'expliquer. Après que Riri ait réhabilité le pétain de la collaboration, a indigné les victimes du Bataclan et la famille du général de Gaulle, crachoté sur les victimes de Mera, pointé un fusil sur un journaliste et demandé de l'aide pour financer sa campagne à un homme connu des sphères révisionnistes, comment se fait-il que notre Éric Zemmour adoré rebute les gens? C'est incompréhensible.
Ah bah oui, totalement. Alors, le livre de Jérôme Fourquet étudie aussi les changements de notre société. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, refuse justement un changement. Il s'offusque de l'entrée du IEL. Hein. IEL, ni le pronom il, ni le pronom elle dans le petit Robert.
Oui, Yves, comme quoi il n'y a pas que les prêtres pour faire rentrer des choses scandaleuses dans le petit Robert. Vous voyez, un homme, ça s'empêche, disait Camus, et puis parfois, non. Je me suis dit, fais-la quand même.
Oh bah oui, alors, vous êtes là pour ça. Restons à l'école, justement. Emmanuel Macron s'est exprimé hier contre le harcèlement scolaire.
Oui, le sujet le touche effectivement de près, car quand on voit la tête des membres de son gouvernement, on devine qu'ils se sont fait bolosser dans la cour de récré. Des Bruno Le Maire, Jean Castex, Gérard Darmanin, ils ont des têtes de victimes. Tu sens qu'ils se sont fait racketter leur Kinder Pinguine et suspendre par le slip au porte-manteau. Même encore aujourd'hui, peut-être.
Le sujet fort de cette semaine, de cette fin de semaine, Philippe, c'est surtout le retour du Covid.
Alors, en France, c'est un petit retour. On est plus sur le retour de Frédéric François que de Orelsan.
Oui.
Cela dit, pour toucher du doigt la réalité, il faut se rendre dans les services de réanimation. On y rencontre de nombreuses personnes âgées non vaccinées, ainsi que les audiences d'Europe 1.
Alors, 9 adultes sur 10 sont vaccinés en France, mais il reste encore, et toujours d'ailleurs, des gens qui doutent. Comment les convaincre,
Philippe ? Deux grandes familles de gens, ceux qui croient en la science, en la médecine, et ceux qui croient au miracle de la nature. Alors, pour savoir à quelle famille vous appartenez, posez-vous une question toute bête. Vous faites un malaise cardiaque, quel est votre premier réflexe ? Soit bêtement, vous rendez dans un hôpital au service des urgences, soit vous courez en forêt pour faire un câlin à un arbre. Oui. Voilà, c'est un choix, soit un urgentiste, soit un acacia.
Très bien. Alors, on ne juge pas. Non. Hier, c'était la clôture du congrès des maires de France, des maires qui seront, selon Emmanuel Macron, les acteurs de la relance économique.
Et là, je vais faire ma Élise Lucet, c'est une info authentique. J'ai des amis patron de strip club. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'en ai.
Strip club.
Oui. Connaissez-vous leur plus grosse semaine de l'année en chiffre d'affaires ?
Oulala.
C'est le congrès des maires de France. Car comme le dit... Tout à fait. Ils sont venus faire un peu la bamboche. Car comme le dit Macron, les maires sont des acteurs de la relance économique, surtout auprès de jeunes danseuses en micro-entreprise. Donc je m'adresse donc aux femmes des élus, si vos maris qui se battent pour la République au quotidien, aidés sur messagerie de 23h à 6h du matin cette semaine. Vous savez désormais pourquoi ? Allez, parlez-en ce week-end en famille.
C'est parce qu'ils travaillent, vous l'avez
c'est
déjà
ça,
compris,
bien sûr.
Évidemment. Merci beaucoup. L'œil de Philippe Cavrivière chaque matin à 7h55 en direct et quand vous le voulez sur RTL.fr, vous le savez. Bonne journée Jérôme Fourquet.
À vous aussi, merci beaucoup.
Et Louis Bodin, tout de suite, notre météo.
Oui, avec une France coupée en deux. Je trace un trait entre La Rochelle et Genève. Au sud, vous aurez du grand soleil. Quelques brouillards ce matin près de la vallée de Garonne, mais ça va vite disparaître. Donc du soleil, moins de vent près de la Méditerranée. Et au nord de cette limite, donc La Rochelle-Genève à peu près, là, ça restera plus nuageux, peu ou pas de précipitations, et puis par moments de belles surprises, peut-être quelques éclaircies quand même autour de la vallée de la Loire, en Bretagne, sur les sommets vosgiens. En Ile-de-France, ça restera très aléatoire, comme sur les régions situées au nord de la Seine, ou encore dans le reste, où là, ça restera gris. Les températures, après quelques gelées ce matin, on ne dépassera pas les 8 à 11 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes au nord-est, 10 à 14 degrés ailleurs, et 16 à 20 degrés quand même, près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Bodin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, patron recherche main-d'œuvre, le paradoxe de l'après-crise.
Il y a du travail, des candidats beaucoup moins. Comment faire coïncider l'offre et la demande ? Dès ce matin et tout le week-end, RTL va tenter de répondre à cette question. Reportage et invité.
Et dès 8h20 d'ailleurs, nous ouvrirons le débat avec un face-à-face dans ce studio. Sophie de Menton, entrepreneuse et femme d'affaires face à David Guiraud, qui est le porte-parole jeunesse de la France insoumise.
À suivre également les ravages du GHB, la drogue du violeur, les plaintes se multiplient ces dernières semaines. La traque s'organise dans le quartier de Pigalle, à Paris. Enquête à suivre. L'Amérique ira-t-elle jusqu'à boycotter les JO de Pékin l'hiver prochain ? Joe Biden y réfléchit sérieusement. Et puis le retour du froid et le début de la galère pour les automobilistes. On vous donnera quelques conseils pour éviter la panne.
Dès la fin du journal, on vous retrouve Cyprien Sini.
Le surf de l'info, jour de fête nationale à Monaco, à la découverte d'un monde légèrement parallèle.
À 8h40, la face cachée de la une avec vous, Isabelle Choquet.
Et nous irons pêcher avec les cow-boys de la mer d'Iroise.
Rendez-vous est pris.
RTL Matin.
Mais d'abord un document RTL pour démarrer ce journal. Le témoignage bouleversant d'une adolescente de 13 ans. Sarah, rouée de coups devant son collège. C'était mardi, la semaine dernière, à Albertville, en Savoie. Lynchée en pleine journée par trois autres jeunes filles. Alors qu'avait lieu hier la journée contre le harcèlement scolaire, le calvaire enduré par Sarah en est ce matin la triste illustration. Avec beaucoup de courage, elle témoigne au micro de Serge Peillot.
On m'a direct frappé, des claques. On m'a pris par les cheveux, on m'a balancé par terre. Puis on m'a mis des coups de pied partout dans le corps, dans les jambes, dans le dos, dans le ventre. J'essaie de me protéger ma tête. On m'a frappé de partout, sans pitié, sans rien. Elles rigolaient, elles insultaient. Il y a rien qui les a arrêtés.
Un garçon a filmé tout ça.
Oui, ils me filmaient. Elles savaient qu'elles étaient filmées. Du coup, ça leur donnait encore plus envie de me frapper. Elles voulaient faire les belles devant leurs amis et tout.
Les adultes se sont passés, ne sont pas intervenus.
Non, personne n'a intervenu. Alors qu'ils voyaient bien que j'étais par terre et puis qu'ils voyaient que j'étais en train de me faire frapper par des jeunes. Il y en a une qui disait « je vais la terminer ». Je laissais faire. Je me disais bien que ça va s'arrêter. Je sais pas pourquoi on me veut tous mal alors que j'ai fait de mal à personne.
Tu veux que la justice t'entende ?
Oui, je voudrais qu'elle m'entende, le procureur, et que les personnes qui font ça soient punies. Puisque moi, j'aimerais pas que ça arrive à d'autres personnes, ce qui m'est arrivé. J'aimerais bien qu'on m'aide.
L'enquête a été confiée au parquet des mineurs de Chambéry. Document RTL, ce matin, signé Serge Puyot.
Il est 8h03. Employeur cherche employé. On a rarement autant manqué de main-d'œuvre depuis la crise.
Un constat auquel s'intéresse ce matin RTL et tout le week-end d'ailleurs avec des reportages, des invités et surtout des pistes de réflexion. Bonjour Arnaud Touche. On verra avec vous la brigade RTL dans un instant comment mieux faire coïncider l'offre et la demande. Mais d'abord un exemple, celui d'un hôtel-restaurant. La sirène a éteint dans la Meuse. Faute de personnel, le patron est contraint de réduire son activité alors que la reprise est là. Vous l'avez rencontré, Dimitri Ramelot.
Dès que ça boue, tu mets le riz dedans.
Oui, beaucoup moins de bruit que d'habitude dans la cuisine de Jean-Paul Chessinski.
Quand les gens devaient reprendre le travail, ils ne sont plus présentés parce qu'ils se sont aperçus qu'avec 84% du salaire, ils avaient assez pour vivre. On était quatre, maintenant je me retrouve tout seul, ma femme fait les courses quand elle peut, ça fait qu'on a doublé nos heures.
Et le couple a dû prendre des mesures drastiques pour poursuivre l'activité tout en conservant la qualité de service pour fidéliser le client.
On ferme des dimanches pour pouvoir avoir un peu de loisirs, on ferme bien souvent le jeudi soir qui est une journée assez calme. Si vraiment quelqu'un coince, on lui fait un petit plateau repas qu'il pourra manger dans la chambre. La deuxième solution, c'est de brider les salles. On s'est aperçu qu'on arrivait à assurer jusqu'à 40 personnes, alors que nos salles peuvent en contenir jusqu'à 70, il nous manque juste deux personnes, mais on ne trouve pas.
Et le restaurateur de 59 ans de pointer du doigt le comportement de beaucoup de profils qui pourraient parfaitement convenir.
Il n'y a pas assez de différence entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Nous, on est dans des salaires à peu près de 1500 euros, nourris, logés, blanchis. Si on a 1300 euros au chômage, on n'a pas trop envie de revenir au travail. Les gens, pour moi, n'ont plus envie de travailler.
Et le couple a décidé de ne plus s'acharner à trouver cuisinier et serveur. La retraite approche, l'affaire sera vendue. Probablement au rabais compte tenu de la situation.
Voilà pour le constat. Nous venons donc de nous intéresser à l'exemple de la restauration. Il est loin d'être isolé. Pourquoi les candidats manquent-ils à l'appel? On va tenter de comprendre un peu mieux avec la brigade RTL. Et l'on vous retrouve, Arnaud Touche. Alors, quels sont aujourd'hui d'abord les métiers les plus concernés par cette pénurie de main-d'œuvre?
Eh bien, on retrouve d'abord les charpentiers, les couvreurs, les géomètres, les vétérinaires, mais aussi les médecins. C'est ce qu'indique Pôle emploi dans son enquête annuelle. Et il y a aussi d'autres secteurs qui recrutent. Les agents d'entretien. Les entreprises prévoient d'en recruter 114 000, rien que cette année. Mais il y a également des emplois dans la manutention. On a besoin aujourd'hui de préparateurs de commandes avec la logistique qui est en pleine expansion. 75 000 recrutements prévus en 2021. On peut parler aussi des routiers. Aujourd'hui, il en manque entre 40 et 50 000 selon les employeurs et le secteur peine à recruter.
Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à faire coïncider l'offre et la demande?
Alors déjà, il y a des métiers qui sont boudés, par exemple les routiers. Beaucoup de candidats expliquent que les salaires sont trop bas et que les contraintes sont trop importantes. Il y a aussi d'autres cas où là, les employés ont presque pris le dessus sur les employeurs. C'est le cas pour les métiers ultra spécialisés et ce sont aux employeurs de payer plus que leurs concurrents pour convaincre les candidats de venir chez eux.
On sait bien Arnaud qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, que le salaire, on le disait, est important. Même si on l'entendait dans ce reportage, il semble que ça ne suffisent pas.
Oui, alors les patrons sont pleinement conscients que les conditions de travail sont parfois difficiles. Le patronat et les salariés négocient d'ailleurs en ce moment une nouvelle grille des salaires. Les patrons viennent d'ailleurs de proposer 10,5% d'augmentation en moyenne dans la restauration, mais ce n'est pas tout. En janvier, les conditions de travail seront désormais négociées. Les salariés demandent plus d'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et des horaires de travail moins contraignants.
Merci beaucoup Arnaud Touche. Ascoval fait finalement marche arrière après une réunion hier soir au ministère de l'économie. Le groupe renonce à délocaliser une partie de la production de son usine du Nord vers les hauts fourneaux allemands fonctionnant au charbon, certes moins cher que les fours électriques français, mais beaucoup plus polluants.
Plus d'un Français sur trois prêt à voter l'an prochain pour un candidat d'extrême droite et c'est un record.
Et c'est ce qui ressort de notre sondage BVA pour Orange et RTL. 34% exactement des intentions de vote dans le détail. 19 pour Marine Le Pen, 15 pour Éric Zemmour. Et si le polémiste n'était pas candidat, alors la patronne du RN serait créditée de 28%, un score égal à celui d'Emmanuel Macron. Aucun candidat de la gauche ne dépasse les 10%. Quant à la droite en pleine bataille interne, là encore difficile d'imprimer, Xavier Bertrand, le mieux placé des candidats, stagne à 15% d'intention de vote et il tente petit à petit d'installer le duel face à Emmanuel Macron. Ça tombe bien, le chef de l'État sera tout à l'heure en visite chez lui dans les Hauts-de-France, William Galibert.
Oui, et voir débarquer le chef de l'État dans l'Aisne, c'est de la provoque, d'après les proches de Xavier Bertrand. L'un de ses amis ose même le dire, le président cale son discours et son agenda sur nous. Bien sûr, ce genre d'accusation à l'Élysée, ça fait sourire et hausser les épaules. Ce qui est certain, c'est qu'entre les deux hommes, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, chaque poignée de main devient plus glaciale que la précédente. La dernière, c'était en septembre à l'école de police de Roubaix. Et depuis, Xavier Bertrand répète à longueur d'interview « Je n'ai qu'un seul adversaire, c'est Monsieur Macron ». Mais en face, le chef de l'État, lui, ne veut pas laisser s'installer ce duel. Il pratique l'indifférence. et délègue la riposte à ses lieutenants. Chez Bertrand, tout sonne faux et Démago tacle un pont d'En Marche. Ce petit jeu d'attaque-riposte n'est pas prêt de s'arrêter. Lundi, Emmanuel Macron sera à Amiens et Xavier Bertrand y sera mardi.
William Galibert du service politique d'RTL.
8h08, trois lettres et un phénomène qui inquiète les autorités. GHB, la drogue du violeur, est-elle en train d'envahir les bars et les soirées, notamment à Paris? Une enquête est ouverte. Reportage dans un instant sur RTL, restez avec nous.
RTL Matin.
RTL, il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Il suffit de prendre quelques gouttes de produit versé dans un verre pour perdre apparemment totalement le contrôle.
On parle du GHB, acide gamma hydroxybutyrique pour le nom scientifique, connu comme la drogue du violeur, parce que ses effets sont fulgurants. En quelques minutes, trou de mémoire, la victime devient totalement vulnérable, ce qui l'expose à des vols ou à des agressions sexuelles. Depuis plusieurs semaines, les témoignages se multiplient, notamment dans la capitale. 9 plaintes ont été déposées, une enquête a été ouverte. La police judiciaire s'est lancée sur la trace d'un ou de plusieurs empoisonneurs présumés, en particulier dans le quartier festif de Pigalle à Paris, où le GHB, vous allez l'entendre, est un sujet tabou. L'enquête RTL est signée Guillemette Franquet.
Dans un grand bar d'Anson de Pigalle, on aperçoit sur le comptoir des couvercles pour que les clients protègent leurs verres. Pourtant, dans ce quartier, il est difficile d'évoquer le GHB avec les gérants de bar. Même avec les clients, c'est un sujet tabou, explique Julien, barman depuis 7 ans.
D'aller en prévention voir des clients pour leur parler du GHB dans son établissement, ça n'invite pas à la confiance non plus. Ça veut dire que le client peut se dire bah, pourquoi il me dit ça, ça veut dire qu'il y a déjà eu des cas.
Au bar Le Clichy Taverne, le patron en parle plus volontiers. Pascal est très sensibilisé au problème du GHB.
J'ai ma femme qui a déjà eu un souci comme ça dans un bar. Depuis, dès qu'une cliente ou un client, quand elle va aller aux toilettes, quand elle va fumer à l'extérieur, je protège son verre avec un sous-boc sur le verre. Pour rien ne rentre dedans, tout simplement.
Elle aussi garde un œil sur son verre. Amanda boit une pinte en terrasse et depuis quelques temps, elle redouble d'attention.
Je vais pas aller forcément dans les mêmes bars. Par exemple, les bars où il y a une présence masculine assez majoritaire, je sais que je vais les éviter, quoi.
Quand elle le peut, Amanda privilégie les soirées en appartement. C'est encore là où elle se sent le plus en sécurité.
Un reportage signé Guillemette Franquet. Vers une dose de rappel pour tous les Français. Si les autorités sanitaires la considèrent efficace et nécessaire, alors il faudra le faire, estime ce matin Emmanuel Macron dans un entretien au journal La Voix du Nord. Le président qui semble de fait préparer les esprits. À l'étranger, cette nouvelle illustration du climat de guerre froide qui règne entre la Chine et les États-Unis et qui pourrait bientôt se déplacer sur le terrain sportif. Le président américain Joe Biden envisage en effet un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver prévus en février à Pékin, et ce pour protester officiellement contre les violations des droits de l'homme. En clair, les athlètes seraient présents, mais aucun responsable officiel ne ferait le déplacement. Une première depuis le boycott des Jeux de Moscou en 1980 à Washington. Pour RTL, Lionel Gendron.
Politiquement, le geste aurait l'avantage pour Joe Biden de satisfaire démocrates et républicains. Diplomatiquement, ce serait un coup de projecteur important pour les musulmans ouïghours, sévèrement réprimés par Pékin. Cependant, cette menace de boycott n'aurait pas été évoquée pendant l'entretien de 3h30 entre Joe Biden et Xi Jinping en début de semaine. Un boycott diplomatique, cela signifie pas de représentants de haut rang aux cérémonies d'investiture et de clôture. À coup sûr, Pékin serait vexé. Pourrait-il y avoir un boycott total, c'est-à-dire des sportifs américains, à moins d'une attaque de la Chine sur Taïwan, très peu probable. Le comité olympique américain y est d'ailleurs opposé. Joe Biden serait embarrassé, pas certain des vertus d'un boycott, même partiel. Il doit donner sa réponse avant la fin du mois.
Lionel Gendron. Et puis l'inquiétude autour de la disparition de Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise qui a accusé un ancien dirigeant du régime d'agression sexuelle et dont on est depuis sans nouvelles. Plusieurs grands noms du tennis se sont hier mobilisés. Novak Djokovic, Serena Williams ou encore Alizé Cornet chez les Français. Le patron du circuit féminin a même menacé de retirer les tournois à la Chine.
Le froid est de retour, hein, les températures devraient chuter. Voici quelques conseils ce matin pour les conducteurs qui nous écoutent.
Car nous avons tous été confrontés au pare-brise gelé, à la corvée de grattage le matin et même parfois au problème de batterie. Heureusement, il existe quelques astuces toutes simples qui peuvent parfois vous sauver la mise, Christophe Bourreau.
Avec le froid, en ce moment, le risque, c'est ça. En effet, avec le froid, une batterie peut perdre plus d'un tiers de sa puissance. L'idéal est donc de pouvoir la recharger ou si vous la sentez faiblarde, n'hésitez pas à la changer. Mieux vaut passer par un atelier, conseille Alexis Frère Jean à la tête de Vroomly Site qui compare les prix des garages.
Une batterie, ça peut aller de 40€ à 200€. Et derrière, nous, ce qu'on vous conseille par-dessus tout, c'est d'aller voir un garagiste puisque pour le coup, la main-d'œuvre pour changer une batterie est très faible. Entre 15 et 30€ de main-d'œuvre, ça vaudra toujours le coup pour qu'il puisse vous aiguiller sur le bon modèle.
Autre souci, le givre sur le pare-brise. Dans ce cas, attention de ne pas jeter de l'eau chaude car le choc thermique risque de le fendre. Le mieux c'est de gratter et de prévenir la veille en mettant une bâche. Enfin, si votre serrure est gelée, évitez la méthode bronzer fond du ski.
Il n'y a qu'un moyen.
Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Pardon.
Rigolo, mais pas top. Le mieux, un aérosol de dégivrage que l'on trouve pour une dizaine d'euros en centre auto.
Pas de pipi dans la serrure.
Non.
Voilà. Christophe Bourouf.
Rien que des bons conseils. Dites-moi, c'est quand le grand coup de froid pour nous, Louis Bedin?
Alors, ça commence dimanche, un peu une première étape, mais le grand coup de froid, c'est en milieu de semaine prochaine.
Et ben voilà, rendez-vous est pris là aussi. C'est terminé ce journal?
Eh ben oui, je vous retrouve à 9h.
Oh, bon, si le temps passe trop vite avec vous. Avec grand plaisir pour le point de l'actualité. Dans un instant, Cyprien Sini surf avec la fête nationale monégasque.
RTL. Revivre ensemble.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Cyprien, vous surfez avec la fête nationale monégasque.
Et oui, car aujourd'hui, donc, c'est jour de fête nationale. Et oui, parce que c'est un pays, Monaco. Ils sont à l'ONU depuis 1993. Alors, bah, l'hymne, s'il vous plaît. Ah, c'est malin,
j'ai
ça.
Marché.
Eh oui, c'est malin. Non, l'hymne, le vrai, s'il vous plaît. Voilà, soyons solennels. Monaco, ouais. Son leader Price, son Flunch et son monsieur bricolage, la vraie vie, quoi. Oui, non, on va pas se mentir. C'est un peu un monde parallèle, Monaco. Déjà, le nom des rues, c'est particulier. Oui.
Les rues Suffren Raymond et Princesse Antoinette, les boulevards Princesse Charlotte et Régnier III.
Voilà, voilà. En tout cas, ce pays souverain depuis 1861 fête sa fête nationale et c'est sacré. À l'époque, en 1861, donc, c'est le prince Charles III qui décide d'une fête pour honorer le pays et pour se fêter un peu aussi. Hein. Donc, pour la date, Charles III, bah, il s'embête pas trop.
Et il va choisir le 4 novembre, la Saint-Charles, pour fixer la date de la fête nationale.
Voilà, il fait d'une pierre deux coups, oui. Comme ça. Puis après, en fonction du prince, ils ont changé la date. Bon, là, ça fait un moment que ça n'a pas bougé. 19 novembre, donc, car...
Cette date du 19 novembre, qui correspondait à la fête du bienheureux Régnier.
Bah oui, en même temps, Albert, c'est un Régnier aussi. Hein. Et je peux vous dire qu'hier, en allant faire un tour sur Monaco Info... Un gros jingle, c'est Monaco Info ça. Au journal,
nous consacrerons une partie de cette édition à la fête nationale qui se déroulera ce vendredi.
Alors une partie, ça fait quand même une semaine qu'ils sont en boucle sur une partie. Hein.
La fête nationale monégasque, dossier fête nationale. Et puisque l'on parle de la fête nationale, on...
Jour de la fête nationale.
De la fête nationale.
De la fête nationale.
Cette fête nationale.
Ouais, c'est bon. Oubliez le Covid, le pouvoir d'achat, tout ce que vous voulez. Non, à Monaco, ça fait une semaine qu'on est sur le coup de la fête nationale et mercredi déjà.
Monaco se prépare au grand jour et la place du Palais est en effervescence.
Ouh là là, l'effervescence trois jours avant. Alors imaginez, tout à l'heure, au début des festivités, ça va être de la folie. Le prince Albert torse nu sur le podium, Stéphane Bern en toupie. Donc bonne fête Monaco et mollo sur le Destroy quand même.
Ah là là. Merci Cyprien, bon week-end. On peut vous retrouver, on va retrouver tous vos surfs de l'info et votre émission quotidienne On défait le monde gratuitement en réécoute sur l'application RTL.
Absolument, soyez nombreux.
À
bon week-end.
Au revoir, merci beaucoup.
RTL Matin,
le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h20, c'est notre débat de la matinale. Nous avons décidé sur RTL d'y consacrer trois jours de reportages, de rencontres, de débats. Les Français ne veulent-ils plus travailler, à moins qu'ils ne souhaitent de meilleures conditions de travail d'ailleurs. En tout cas, les secteurs où l'on manque de bras sont extrêmement nombreux, et ce, malgré la baisse du chômage. J'accueille David Guiraud, qui est porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Et Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique. Votre livre, La France sans dessus-dessous, vient de paraître aux éditions Erol. Je commence avec vous, Sophie de Menton. Pourquoi on ne trouve pas de bras pour travailler ?
Alors d'abord, c'est une question que tous les chefs d'entreprise se posent tous les matins. Oui. Mais plus sérieusement, il y a, au-delà des éléments que donnait très intéressant François Langlais tout à l'heure, il y a une réalité du terrain qui est très particulière.
C'est-à-dire ?
Il y a un post-Covid psychologique déjà. Il y a eu le télétravail. Donc les salariés veulent en profiter. Il y a eu un chômage. On a été très généreux en France. On a été parmi les plus généreux. Il y a eu un chômage technique auquel les gens ont un peu pris goût et sont restés le plus longtemps possible, etc. Et puis, il y a cette forme de générosité française qui fait, par exemple, je pense à une profession, celle des coiffeuses. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de coiffeuses ? Partout, on en cherche. Et elles ont compris pendant le confinement, après, etc., qu'elles faisaient des domiciles. Elles se sont mises à travailler à leur compte. Et c'est très bien, il y a beaucoup de gens qui sont mis à travailler à leur compte. Elles vont, et c'était déjà le début, elles vont trouver un emploi pendant 6 mois ou 3 mois, retourner au chômage et se mettre à leur compte pendant un certain temps. Donc il y a un mixte des avantages sociaux et une intelligence des situations finalement pour profiter un petit peu du système aussi.
David Guiraud, est-ce qu'on se complaît dans le chômage à un moment ou un autre? J'ai envie de vous dire par étapes, parce que ce qui est important dans ce que vient de nous dire Sophie Menton, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des espaces en quelque sorte différents et successifs.
Il y a deux choses. La première, c'est que c'est pas vrai que les gens ne foutent rien une fois qu'ils sont au chômage, puisque c'est Pôle emploi qui le dit lui-même. 88% des demandeurs d'emploi cherchent activement un travail. Ça fait quand même 9 personnes sur 10, hein, c'est pas mal. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a des filières qui sont en sous-tension. Enfin, on appelle ça la sous-tension, c'est-à-dire qu'il y a des filières qui ne trouvent pas de boulot. Il faudrait peut-être se demander pourquoi elles ne trouvent pas de boulot.
Ben oui, c'est la question que je pose. Notamment dans la restauration, vous avez certainement une réponse.
Mais non, mais dans la restauration, les gens ont eu raison de ne pas postuler, puisque le fait que dans la restauration, ça, on manque de bras, eh ben, force les employeurs à se dire « mais c'est peut-être parce qu'on paye mal les gens, en fait ». Et c'est parce qu'on paye mal les gens qu'il y a certaines filières qui ne sont pas attractives. Et moi, je le dis, il est quelle heure? Il est 8h20,
8h25? Il est
8h23.
8h23. Vous étiez juste
là, les gens, ils sont soit dans les bouchons parisiens, soit sur les routes de campagne, soit ils sont arrivés au boulot, soit ils se préparent à y partir. Mais moi, je le dis, mais c'est très bien que les gens ne se laissent pas marcher dessus aussi. Enfin, je veux dire, quand on est dans la restauration, il faut se rendre compte que c'est des cadences extrêmement difficiles.
Bien sûr.
Pourquoi 1500 bruts par mois, c'est pas respectueux.
Vous résumez ça à une question de salaire?
Pas que. Par exemple, en ce moment, ce qui se passe à Pôle emploi, ou ce qu'on propose aux gens, et je vous dis, hein, on a tellement fait intégrer aux gens, y compris aux chômeurs, que c'est le crime ultime d'être au chômage dans ce pays, qu'ils acceptent tout. Malheureusement, ils acceptent tout. Et on leur a tellement fait ça. Mais il n'y a pas qu'une question de salaire. Il y a, par exemple, c'est facile, par exemple, d'être mobile quand on est à 2000, 2005 net par mois. Moi, je suis à 2000 net par mois, je veux bien être mobile, ça ne me dérange pas. Mais quand on vous dit qu'il faut faire des métiers, par exemple, faire du ménage, où en fait, vous partez le matin, ensuite, vous avez une coupure dans la journée de 3, 4, 5 heures, vous devez revenir chez vous, ou on ne sait pas ce que vous faites. Et puis, il faut revenir le soir. Dans la restauration, c'est pareil, c'est des cadences infernales, c'est le week-end, etc. Il y a un moment où il ne faut pas s'étonner qu'il y ait moins de gens.
Vous aviez la gentillesse de citer mon livre, j'ai un chapitre, c'est « Bosser une malédiction française ». À 8h25 sur RTL, vous dites « ils ont bien raison de ne pas reprendre le boulot ». Je vous dis, c'est juste pas possible. Ils ont bien raison dans la restauration. Moi, ça m'indigne. On a passé sa vie à dire que les salariés étaient des victimes, que le travail était quelque chose d'épouvantable, qu'on était mal payé, etc. Alors, c'est vrai que la différence entre le SMIC et le salaire minimal en France est infiniment trop faible. On a un SMIC élevé, que d'ailleurs on veut élever tous les ans, ce qui fait qu'on a des salaires qui... Voilà. On n'arrive pas... Les entreprises aimeraient bien payer plus leurs salariés. Est-ce que vous imaginez qu'on n'a pas envie de les payer plus?
Ouais.
Je veux dire, mais non, vous avez totalement tort.
Dans la restauration
Mais oui, vous avez tort.
Pour la bonne raison
qu'un salarié bien payé, il est fidèle, il vient beaucoup plus gaiement au boulot, il est plus efficace, etc. On en rêve, on donne des primes parce que c'est défiscalisé, on essaie de se débrouiller.
Mais il est où le problème alors, Sophie?
Le problème, il est que quand vous donnez 1000 balles de plus, ça a été le cas puisque c'est Éthique qui a eu l'initiative de la prime à 1000 euros pour les gilets jaunes. C'est nous. On a dit un beau matin, c'est vrai que c'est pas possible qu'il y ait des salariés qui vivent pas de leur salaire.
Je crois que c'était les gilets jaunes qui avaient eu l'idée d'arracher des conquêtes sociales.
Non, pas de chance. C'est Éthique, d'ailleurs, c'est dans la presse. Oui, pourquoi vous dites ça?
Je pense que c'est le mouvement social des gilets jaunes qui a
D'accord.
fait que le gouvernement.
Alors, c'est le mouvement social, mais c'est nous qui avons dit on va leur donner 1000 euros défiscalisés.
Oui.
Et donc, ça a été accepté. Mais attendez, alors, quand je donne 1000 euros, vous avez 800 euros dans votre poche si vous travaillez chez moi, et ça m'en coûte 2100. Donc c'est juste là le problème. C'est qu'on a un coût du travail terriblement élevé et que pour payer plus les salariés, il faut un coût du travail moins élevé.
Alors moi, il y a quelques solutions. D'ailleurs, je suis venu avec le programme qu'on a sorti, parce que c'est quand même le but des organisations politiques de proposer des choses. Je vous donne le programme. Il est disponible dans toutes vos librairies.
Aux éditions du Seuil.
Moi je le dis, il y a certains secteurs, notamment dans la restauration, dans les grandes boîtes de la restauration, effectivement, on marche sur les salariés. Et les salariés ont bien raison de réclamer des augmentations de salaire. Je le dis, les gens aujourd'hui, même ceux qui se lèvent aujourd'hui,
demander au président du syndicat, c'est pas les prix qu'on donne.
Madame, c'est parfaitement normal de demander des augmentations de salaire.
Oui,
je dis pas que les gens ne doivent rien faire. Je dis que c'est normal et que, y compris chez les gens, c'est normal. Et comment on fait? Alors la question, c'est comment on fait? Eh bien, les petites entreprises, peut-être que c'est plus dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds. Dans ce cas-là, on les aide. On fait en sorte de créer un fonds de solidarité inter-entreprise. C'est une de nos propositions.
Avec l'argent de l'État qu'on va prendre aux entreprises.
Avec l'argent des grandes boîtes, effectivement, elles ont été...
Le clivage, vous allez les grandes boîtes qui ont réussi.
Je sais que ça vous dérange. Parce que
mais non, ça ne me dérange pas. Les petites boîtes,
Madame,
en France,
c'est vrai. Non, mais attendez,
on est le seul pays où on a des toutes petites boîtes, on ne grossit pas.
Mais Madame de Menton, je ne veux pas vous mentir. Les plus grosses boîtes, elles vont payer. Je vous le dis droit dans les yeux, elles vont payer, je l'assume. Parce qu'aujourd'hui, elles sont sous perfusion justement de l'État. Parce que vous savez, les aides de l'État, quand c'est les chômeurs, vous vous plaignez beaucoup.
Pensez que Bernard Arnault est sous perfusion de l'État, premier groupe mondial. Il est sous perfusion de l'État. Ah oui,
madame, 20 milliards d'euros.
C'est lui qui paie Notre-Dame. La réflexion, enfin, c'est absolument faux.
20 milliards d'euros de CICE par an, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc moi, je vous dis, effectivement, les grandes boîtes vont payer plus et pas pour l'État, pour aider les petites boîtes à augmenter les salaires.
Merci, on n'en veut pas, les petites boîtes. On n'en veut pas de vos aides. On ne veut pas de vos aides.
Vous n'êtes pas les petites boîtes.
Si, je suis les petites boîtes.
Ah non, madame, je ne vous reconnais pas cette qualité-là, d'ailleurs.
Vous avez tort.
Vous êtes. Non, non, mais je ne vous reconnais pas cette qualité-là. Vous êtes une intervenante dans le débat public. C'est votre droit. Vous avez des opinions politiques. C'est votre droit aussi. Malheureusement,
pas d'opinion politique,
vous n'êtes
pas des opinions entrepreneuriales.
On aidera les petits patrons qui galèrent et qui veulent vraiment augmenter les salariés à faire en sorte au moins que le SMIC soit à 1004 net, parce que les gens dans ce pays méritent ça. C'est pas un cadeau. Et c'est un dû qu'on leur doit à tous les travailleurs qui se lèvent.
Et je vous remercie l'un et l'autre d'avoir réussi à débattre aussi fortement tout en étant audible et avec des arguments qui nous intéressaient dans un cas comme dans l'autre. David Guiraud, porte-parole de la jeunesse à LFI, et Sophie Menton, présidente du mouvement éthique. La France en dessus-dessous aux éditions Erol, c'est votre dernier livre. Et le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, L'avenir en commun aux éditions du Seuil.
3 euros seulement.
3 euros seulement.
Oui, on a fait cheap.
Moi, c'est beaucoup plus cher, 17.
Alors, bon, vous savez quoi acheter.
Eh bien, si vous choisirez. Pour 20 euros, vous avez les deux. Merci infiniment à tous les deux. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Louis Bonin.
RTL Matin.
Il est grand temps de nous intéresser à notre météo à 7 jours, parce que cette météo en ce moment, elle est particulière et elle est passionnante pour
le coup. Passionnante.
Et pas facile, facile non plus.
Exactement. Voilà. Et pas facile non plus à prévoir justement. Enfin, en tout cas, on va vers du froid, ça semble se confirmer la semaine prochaine. Alors pour aujourd'hui, on l'a dit, du temps sec avec beaucoup de nuages dans la moitié nord, du soleil dans le sud, des températures à peu près de saison. Demain, c'est la même chose, on aura un peu de grisaille dans la moitié nord. L'espoir d'avoir quelques trouées l'après-midi, c'est plus ou moins facile, ça l'est moins évidemment dans les régions du nord et du nord-est. Puis dans la moitié sud, on aura toujours du soleil. Côté température, ça ne bougera pas. Là où le ciel sera dégagé en cours de nuit, on retrouvera des gelées fréquentes, notamment dans le centre ou encore la moitié sud. Dimanche, on change de régime avec le courant nord qui s'installe, apportant une première perturbation avec de la pluie dans la moitié nord. En arrivant dans le sud, elle aura tendance à se désagréger, mais elle donnera quelques flocons sur les reliefs de l'est, donc en particulier sur les Alpes du Nord, peut-être un peu sur les Pyrénées. La Méditerranée conservera du soleil. Lundi, l'anticyclone revient s'installer avec donc de l'air de plus en plus froid, mais avec peu de précipitations. Oui. On retrouvera la grisaille matinale, les brouillards et puis les quelques éclaircies l'après-midi. Même chose pour mardi. Et puis en milieu de semaine, mercredi et jeudi, c'est la deuxième couche, avec là un courant de nord qui va être encore plus froid. Donc les températures auront probablement du mal à dépasser les 5-6 degrés l'après-midi, notamment dans le nord. On aura des gelées fréquentes le matin et ça sera accompagné d'humidité. Donc on va voir à quel niveau pourront tomber ou la pluie ou la neige. Mais ça pourra probablement se produire à très basse altitude. Bon là, c'est trop loin pour être précis.
Oui, oui, oui.
En tout cas, voilà, du froid, de l'humidité, probablement de la neige à basse altitude dans beaucoup de régions.
Le programme est très clair. Merci beaucoup, Louis Bonin. Vous restez avec nous parce qu'on s'est toujours posé la question de savoir si le président Trump avait effectivement organisé de fait l'attaque du Capitole dans son pays. Eh bien, une commission d'enquête parlementaire a été saisie aux États-Unis. Contrairement à ce qu'on raconte, les États-Unis sont une grande démocratie. On va vous expliquer tout ça.
RTL autour du monde.
Donald Trump est-il l'instigateur de l'attaque du Capitole du 6 janvier? Une commission d'enquête parlementaire est désormais saisie aux États-Unis. Elle s'intéresse notamment à une réunion secrète dans un hôtel de Washington qui aurait eu lieu la veille. Lionel Gendron, bonjour. Vous êtes notre correspondant aux États-Unis.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'ancien président et ses fidèles soutiens font tout pour entraver cette enquête.
Et pour ça, Donald Trump empêche la transmission de documents essentiels à l'enquête. Il fait jouer ce que l'on appelle le privilège exécutif. C'est une tradition pour protéger la présidence et en l'occurrence son avenir. Ses proches collaborateurs refusent également de se rendre aux convocations, à commencer par Steve Bannon, ancienne éminence grise d'extrême droite de Donald Trump. Il risquait la prison, donc il a finalement répondu aux enquêteurs. Il s'intéresse à lui car écoutez ce qu'il disait la veille, le 5 janvier, dans son émission de radio.
Ça ne va pas se passer comme vous l'imaginez. Ça va être très différent demain. Demain, c'est le grand jour pour la présidence Trump. Et avec cette action, son deuxième mandat va commencer avec un grand fracas.
Les enquêteurs s'intéressent aussi à une mystérieuse réunion dans un hôtel de Washington, la veille de l'assaut.
Une autoproclamée cellule de crise à laquelle participait Steve Bannon, donc, ainsi que l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, ou encore un ancien chef de la police de New York. L'hôtel en question, c'est le Willard, tout proche de la Maison Blanche. L'expression d'ailleurs « faire du lobbying » viendrait de là car le président Grant y venait souvent et beaucoup le sollicitaient dans le hall d'entrée, le lobby en anglais, pour s'attirer ses faveurs. Pour revenir à la commission parlementaire, elle veut se procurer des relevés téléphoniques pour savoir si des appels ont été passés entre cet hôtel et le bureau Oval. L'enjeu, c'est tout simplement l'avenir de Donald Trump. Pour l'instant, il joue sur l'interprétation de ses propos le 6 janvier. Souvenez-vous, les sénateurs s'apprêtaient à certifier l'élection de Joe Biden et il avait dit ceci face à ses milliers de partisans.
The best is yet to come.
Le meilleur est à venir. Et nous allons aller au Capitole pour donner aux républicains de la force afin de récupérer notre pays.
Factuellement, il ne dit pas qu'il faut investir le Capitole, mais si la commission montre qu'il a planifié les événements, en clair qu'il a participé à une tentative de coup d'État, difficile d'envisager une réélection. Donc il gagne du temps, le calcul est simple, l'année prochaine, les élections demi-mandat, souvent défavorables au pouvoir en place, et si les républicains reprennent le contrôle du Congrès, cette enquête sera sans doute mise sous le tapis.
Merci beaucoup Lionel Gendron, RTL aux États-Unis. Dans un instant, Isabelle Choquet pour la face cachée de la une. De quoi allez-vous nous parler, Isabelle ?
Nous allons chevaucher les vagues au large de la pointe bretonne.
Oh, ça va être bien agréable.
Le matin,
Yves Calvi.
Il est 8h37 et ce matin, Isabelle Choquet, nous prenons avec vous et avec les pêcheurs de... Pardon, nous prenons la mer avec vous, ce sera beaucoup plus clair.
Oui.
Et avec les pêcheurs de ligne... en mer d'Iroise.
Et ils sont une trentaine seulement, Yves, une trentaine d'hommes qui perpétuent la tradition au large du Finistère. Pas de filet, juste une canne à pêche. Leur devise, c'est un homme, un bateau, un hameçon. La pratique est dangereuse, mais le jeu en vaut la chandelle. Le secteur concentre 130 espèces de poissons. On embarque cette semaine avec Paris Match.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi.
Vous connaissez le dicton, qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Saint voit sa fin. La mer d'Iroise, c'est un bouillon plein de récifs, c'est là que les vagues de l'Atlantique viennent se heurter à la marée. Tout n'est qu'un jardin d'épines sur une mer médiévale qui se défendrait contre les intrus. C'est ce que dit fort joliment Kersauzon. De fait, la zone abrite le plus grand cimetière d'épaves au monde. Alors les ligneurs de la pointe bretonne s'offrent des bateaux puissants, des bateaux qui peuvent accélérer rapidement en cas de danger. Le plus souvent, ils sont seuls, chacun part de son côté. Comme les cueilleurs de champignons, un peu, ils ont leur coin secret. Ils risquent leur peau pour l'un des poissons les plus recherchés des côtes françaises, le bar. La ligne, c'est une pêche spectaculaire. Un combat à la loyale, si on peut dire, et ils en sont fiers. Le poisson n'est attrapé que s'il mord, disent-ils. Le chalut, c'est juste de la récolte. Ils chevauchent les vagues, manettes des gaz à main gauche et canne à main droite, la barre coincée entre les jambes. Ce sont des cow-boys, dit une vieille bretonne qui assiste au rodéo depuis la côte. Des cow-boys et une cow-girl, une seule, Claire, 23 ans, la première femme ligneur de la pointe bretonne. En mer, cette fille-là vaut deux bons hommes, confirment les gars, et pourtant ils n'ont pas le compliment facile. Face à leur port d'attache, un monument a été élevé aux marins péris en mer, 88 noms gravés dans la pierre, mais ça... on n'en parle pas. Les ligneurs ont la parole rare et sobre. Les jours de gros temps, par exemple, quand on annonce des creux de 4 à 5 mètres, ils vous diront qu'il y a du clapot. Ils ne sont pas inconscients. Hein. À bord, ils embarquent des sondeurs, des GPS, des radars. Mais le principe de précaution n'est pas leur guide. C'est dangereux, oui, on a les genoux qui tremblent, dit Dominique, mais quand on va dans la marmite, ce n'est jamais par plaisir. C'est parce qu'il fait mauvais que le poisson s'excite et qu'il se laisse prendre. Michael confirme, si on pouvait lever du bar dans l'étang du bois de Boulogne, on ne se gênerait pas. Michael, c'est un nouveau venu. Ils sont une petite dizaine comme lui à être entré dans le métier ces dernières années, même si le terrain de jeu a tendance à se réduire, même si le poisson se fait rare. La faute aux pélagiques, comme ils disent, ces fileyeurs qui mettent des coups de chalut dans les zones de frais. La pêche de ligne, elle, est respectueuse. Les poissons sont remontés un par un sur le pont. Enfin, quand ils sont remontés, hein, quelquefois ça ne veut pas, raconte Dominique. Tu rentres au port une main devant, une main derrière. On ne force pas la nature. Malgré tout, les ligneurs de la pointe bretonne gagnent leur vie. Les plus téméraires s'en tirent même très bien. Et si vous leur demandez comment ils voient l'avenir de la profession, ils vous répondent l'avenir. Oh, vous savez, on ne voit pas si loin. Les cow-boys de la mer d'Iroise. Formidable reportage iodé cette semaine dans Paris Match.
Merci pour cette grande bouffée de respiration au grand large. Merci beaucoup. On se retrouve lundi matin.
Bon week-end à lundi.
Avec plaisir Isabelle. Bon week-end à vous.
Comme ça.
Et dans Vous êtes comme ça ce matin, nous vous présentons un jeune Lorrain de 25 ans, passionné par le basket. Chaque semaine, les podcasts de Benjamin Ringuet, consacrés à la NBA, le championnat américain de basket, sont parmi les plus écoutés de France dans la catégorie sport. Bonjour Dimitri Ramelot.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est pas compliqué, Benjamin est un passionné. Il a installé un vrai petit studio chez lui à Lémont, dans la Meuse, pour enregistrer son podcast intitulé « Dunk Hebdo ».
Salut à tous.
Prise d'antenne dans la chambre de Benjamin devant son ordinateur portable.
Notre classement des 20 meilleurs joueurs.
Une webcam, un micro, quelques feuilles griffonnées, présentation de son équipe en visio.
On a d'abord notre spécialiste des Bulls, Adrien. Comment ça va Adrien ?
Ça va super, assez excité pour cette partie haute du tableau du DH20.
Et c'est parti pour au moins une heure d'émission enregistrée comme chaque dimanche depuis 2016. Le créateur du podcast, Benjamin Ringuet, 25 ans, explique sa ligne éditoriale.
Maintenant, on essaye de se concentrer sur un sujet qu'on va essayer de vraiment décortiquer en allant vraiment en profondeur, mais en restant quand même accessible pour des gens qui regardent un peu la NBA. C'est-à-dire, on va peut-être laisser de côté les puristes qui veulent vraiment une analyse très très poussée et les gens qui connaissent presque rien, mais on veut vraiment avoir un spectre très large d'auditeurs.
Et avec son émission accessible sur les principales plateformes et en vidéo sur YouTube, l'équipe de 6 copains et 2 community managers rassemble 20 000 auditeurs chaque mois. Une pression exaltante pour Madiane, 29 ans, ancien auditeur devenu chroniqueur installé en région parisienne.
Quand j'interviens, j'en ai très rapidement aux alentours de la quinzaine d'heures de préparation. Moi, je considère qu'on a un devoir à minima de qualité parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Donc voilà, je me dis qu'on a une responsabilité de leur produire un contenu fouillé, recherché, quand autant de gens vous écoutent.
Et chaque milieu de semaine, une conférence de rédaction fait rage sur le groupe WhatsApp de Dunk Hebdo. Quel thème, pourquoi, et des rêves plein la tête pour Benjamin Ringuet, le créateur du podcast.
Bien évidemment, vu qu'on parle des États-Unis et de la NBA, pouvoir faire des choses là-bas, bien évidemment. Pourquoi pas enregistrer une émission là-bas, interviewer des sportifs, c'est pas si compliqué que ça, mais assister au final. It's over, it's over. Cleveland is a city of champions once again. Je n'y suis jamais allé, j'ai honte de le dire, je suis un des seuls de l'équipe qui n'y est jamais allé. Je suis parti de l'autre côté du monde, moi, pour mes études, mais pas les États-Unis.
Et si Benjamin a déjà été approché par une société de production, il a renoncé pour rester maître de ses rêves, qui, selon sa maman Christine, ne sont pas totalement aboutis.
Petit à petit, il perce. Donc je me dis, bon, c'est une porte ouverte d'être journaliste. Le fait simplement de faire cette émission-là, non, je pense qu'il en rêve encore. Oui, ce serait merveilleux.
Et en attendant l'appel qui fera peut-être basculer le destin de Dunk Hebdo, Ilyse, Thomas, Adrien, Madiane, Benjamin et Alan concoctent déjà l'émission du prochain Rouge Antenne après-demain à 19h, avant réécoute, validation et mise en ligne dans la nuit de dimanche à lundi.
Et ben voilà, un sacré coup de pub. Merci beaucoup Dimitri Ramelot. Et tous les amoureux de basket peuvent retrouver le podcast Dunk Hebdo sur YouTube. Évidemment, nous mettrons toutes les informations sur notre site rtl.fr. Monsieur Gérard est avec nous avec son orchestre typique dans quelques instants.
RTL Matin, 7h-9h30.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi. Une étude du cabinet Gira Conseil révèle que le hamburger vient de détrôner le traditionnel jambon beurre dans les préférences des Français.
Fumier !
Mais qu'est-ce qu'il y a, Gérard Depardieu ? Vous n'aimez pas les hamburgers ?
Non, j'aime pas ça.
Ah.
C'est tout mou. Mmh. On dirait de la bouffe pré-mâchée.
Oh.
Alors qu'un jambon beurre, c'est tellement bon, hein, avec du pain croustillant. Un bon beurre bordier à 80% de matière grasse.
Ah, oui. Ah, oui, hein, ah,
c'est une belle tranche de jambon rose. Rose comme la chemise de M. Calvi. Aujourd'hui, mais enfin bon, ça arrive. Hein, ça a quand même une autre gueule qu'un hamburger, mon Dieu.
Bon, cette étude nous apprend également que le hamburger n'est plus seulement servi dans les fast-foods, mais également dans les tabacs, dans les restaurants traditionnels et même gastronomiques.
Des burgers dans des restaurants gastronomiques ? Mais c'est quoi cette connerie ? Et pourquoi pas Booba à la salle Playel, hein ? Ou Zaz dans un défilé Christian Dior ?
Ah non, bon. Même pas. Non.
Bon. Vous pensez qu'un hamburger ne peut pas être gastronomique ?
Bien sûr que non ! Ah. Déjà le mot burger, il m'inspire pas confiance. Poulard de Bresse en demi-deuil, ça, c'est un nom de plat gastronomique. Il y a de la poésie, une jolie promesse. Rien que l'intitulé donne faim. C'est pas comme hamburger, cheese burger, machin burger, bidule burger ou mes couilles burger, fumier.
Bon, mais pourtant hier soir j'ai mangé, moi, un burger de canard, et bien je me suis régalé.
Mais enfin, si tu veux manger du canard, hein, va dans un restaurant gascon et commande un magret ou le canard en entier d'ailleurs. C'est ça qui m'énerve dans le burger. On fait des burgers à tout et n'importe quoi. Burger de canard, burger de poisson. Tu vas voir qu'ils vont nous inventer des burgers à la blanquette de veau, des burgers au poulet basquez. Et encore pire, j'appréhende le burger tofu quinoa à l'épeautre.
Bon, vous exagérez. Hein.
Mais non, j'exagère pas. C'est pas le genre. Avec les burgers, il faut que la nourriture soit hachée et coincée entre deux tranches de pain brioché pour que les gens y touchent. Tu sais plus manger ou quoi ?
Hein ?
Hein ? Tu sais plus utiliser un couteau, une fourchette ? Hein ? Et tu vois ces trucs blancs que t'as dans la bouche ? Ça s'appelle des dents.
Merci Gérard.
Si t'arrêtes de t'en servir, elles vont tomber. Et quand on n'aura plus, on verra si t'as toujours envie de sourire quand tu vois un burger. Ah, oh, nom de Dieu !
Le coronavirus n'épargne personne, même pas nos amis les chiens.
36-15 Covid-19, hein, avec mon gars Bruno Lochet, à qui je demanderai de s'éloigner un peu, car hein, le premier ministre, il a dit, il faut un maître réglementaire entre nous.
Ah ben oui, ma femme, elle est pas d'accord, elle pense qu'il va pas assez loin dans les consignes.
Oh, oh, je ne savais pas que Mme Lochette est une experte en catastrophe sanitaire. Et qu'est-ce qu'elle dit alors, Mme Lochette, la femme à Bruno, hein? Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Lochette?
Ben, elle dit que pour être sûr de ne pas se refiler le corona machin,
oui.
Ben, on va pas mettre seulement un mètre de distance entre nous, on va en mettre 10 kilomètres.
Oh, 10 kilomètres, c'est comme qui dirait une sacrée barrière sanitaire, hein, là, mon Bruno, hein.
Ah bah oui, puis elle m'a dit qu'en l'état actuel des avancées scientifiques, comme on est sûr de rien, et que peut-être le corona truc, là, il passe par les fils du téléphone, ou les ondes, ou je sais pas quoi, eh ben, tu oublies mon numéro, tu m'appelles plus, qu'elle m'a dit. Tu m'appelles plus jamais, qu'elle a rajouté.
Oh, Madame Lochet prend vraiment toutes les précautions, hein. Elle est pour le risque zéro. Elle a risque zéro.
Ah bah oui, ma femme, elle est très pour la sécurité.
Oui.
Alors, je crois surtout que elle est surtout très pour le divorce, mon Bruno. Hein. Alors, si je comprends bien, tu es venu te confiner chez moi. Oui. Hein, sauf que je dois te dire, mon Bruno, que je n'ai pas très envie que Madame Morel prenne les mêmes directives que Madame Lochet. Donc tu vas aller te confiner ailleurs. Hein. Qu'as-tu mis dans ton panier, un Lochet, un Lochet? Qu'as-tu mis dans ton panier, un Lochet tout confiné?
Wow! Ben alors...
Aïe, aïe, aïe. Alors, selon le professeur Luc Montagnier, oui. Le Covid-19 aurait été fabriqué dans un laboratoire chinois à partir du virus du sida. Une hypothèse ahurissante qui nous a inspiré un épisode inédit des Shadocks sous le titre « Les Shintocks
». Gabizoubou.
Sur la planète Shintok vivaient les Shintok. Spécialistes de la contrefaçon, les Shintok pompaient. Mais en voulant pomper le HIV pour lancer leur propre sida Shintok, ils ont accidentellement créé le Covid-19 qui s'est échappé du laboratoire Shintok.
Mais comment a-t-il pu s'échapper?
Sur la planète Shintok vivait le pangolin.
Non.
Le virus a donc sauté sur le dos d'un pangolin, hop, et a crié « Un pangolin !» Les Shintok ont alors actionné la pompe à pangolin pour l'attraper. Et ils ont pompé, mais ça n'a pas marché. Et le virus s'est enfui sur la planète Jibi.
Oh, mais que font les Jibi?
Sur la planète Jibi, on perce des trous. Alors, les Jibi ont percé des trous pour chercher les masques et les tests. Et ils sont tombés dedans.
Tandis qu'un septième opérateur de trottinettes électriques s'implante à Paris, des associations pointent la dangerosité de ce véhicule, déplorant une augmentation considérable de blessés et même parfois de morts. Faisons le point avec l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë.
Ouh, j'ai peur, mademoiselle Jade. Je frissonne de terreur, monsieur Calvi.
Oh, Bertrand.
Ces chiffres d'accidents de trottinettes sont effectivement alarmants.
Ce ne sont pas les chiffres qui m'alarment, mademoiselle Jade.
C'est
l'éventualité d'une interdiction de ce formidable moyen de transport écolo et citoyen. Ça me glace le sang. Glac, 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 glac.
Oui, mais enfin, quand même, il faudrait peut-être prendre des mesures. Les conducteurs de trottinettes prennent des risques énormes.
Que voulez-vous, mademoiselle Jade? Il faut souffrir pour être belle. Oh, qu'elle est jolie.
Mais je vois pas le rapport.
Réfléchissez, mademoiselle Jade.
Oui, j'essaie.
Se rendre à toute vitesse.
Oui.
Dans un bar à barbe.
Ah.
Pour avoir une belle coupe. Clic, 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 clic. Oh,
oui.
C'est joli, c'est tout bien carré. Ça mérite de prendre quelques risques tout de même.
Vous n'êtes pas sérieux là, Bertrand Delanoë.
Et faire de la trottinette, contrairement à ce que prétend votre étude, ou les rabat-joie, permet de rester en forme une, deux.
Ah, parce qu'on fait du sport quand on fait de la trottinette, c'est ça?
Que nenni. Aujourd'hui, les trottinettes sont électriques. Oh la ringarde.
Oui, merci. Je vois donc pas le rapport avec le fait de rester en forme.
Faire de la trottinette à Paris permet d'atteindre un bar à jus. gloup, 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 gloup.
Oui.
En deux temps, trois mouvements. Et qu'est-ce qu'ils veulent les Parisiens, les Parisiennes et les bobos? Boire un bon jus, boire un bon jus détox au pissenlit bio. Oui. Miam, 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 c'est bon pour purifier son corps.
Bah, parfois, ce sont des accidents mortels.
Vous êtes pisse froid, mademoiselle Jeanne.
Oui.
Tenez-moi, oui. Ce matin, j'ai eu un bobo avec un bobo.
Ah bon? Ah.
Mais je me suis cassé un membre et j'en fais pas toute une histoire.
Vous vous êtes cassé quoi, vous?
Un ongle. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ça fait mal. Et bien, grâce à ma trottinette qui tape des pointes à 100 km/h, oui. J'ai atteint un bar à ongles en quelques minutes où un styliste conseil angulaire m'a sauvé la vie. Youpi!
Merci à toute l'équipe. Non, excusez-nous, je discutais gentiment avec Isabelle Morini-Bosque. Donc, je me suis laissé surprendre. On vous retrouve sur le site RTL.fr et nous avons rendez-vous dès lundi matin avec toute l'équipe. Et puis, c'est le week-end, bien entendu, dans les matinales d'RTL. Vous avez envie d'un bon velouté de... Oui, un velouté de chou-fleur?
Ah oui.
C'est avec Monsieur Lignac dans un instant. Parfait.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Noam habite Clichy, dans les Hauts-de-Seine, et fait appel à vous pour réaliser un velouté facile à réaliser et à déguster tout au long du week-end. Quelle bonne idée.
Ah ben ça c'est super. Oui. Alors justement, on va faire un petit velouté de chou-fleur. Mmh. Donc en fait, je coupe le chou-fleur, je prends les sommités, je mets dans une casserole. Moi je marque toujours les légumes quand je fais un velouté. Donc je mets un petit peu de beurre demi-sel, comme ça on a une coloration naturelle. Et ce qui est bon, c'est que ça commence à torréfier en fait le légume. Ensuite on ajoute de l'eau.
Ah, voilà.
Comme ça, on ne rajoute pas forcément de bouillon de volaille, puisque la caramélisation du beurre avec le légume nous donne ce bouillon de légumes. Je mets de l'eau, je laisse cuire, on peut mettre un petit peu de thym, on peut mettre un petit peu d'ail, on fait un peu comme on veut. Moi, j'aime bien de nature pour sentir le produit.
D'accord.
Et ensuite, une fois que c'est cuit, je le mixe, et là, j'ajoute de la crème fraîche. Mmh. Alors, deux solutions. Soit je mixe, je mets un petit peu de beurre dedans, et à côté, ça c'est très très bon, hein, je le fais ça au restaurant. À côté, je monte comme une chantilly, mais salée, donc crème fouettée, dans laquelle j'ajoute du curry. Donc ça nous fait une petite chantilly salée au curry. Et au dernier moment, quand les convives sont là, j'ajoute une belle cuillère de crème fouettée. Comme ça, ça fond et ça nous fait comme un cappuccino, mais en
bien
fait.
Sûr.
Un cappuccino avec des saveurs de chou-fleur. Si on ne veut pas s'embêter, on met la crème liquide directement
c'est
dedans, ça nous fait un velouté aussi.
Parfait.
Voilà. Pensez toujours aux petites pointes de curry pour twister un peu le velouté. Oui. Si on veut en faire un plat complet, des petites tranches de saumon fumé que l'on hache et on verse dessus, ça nous fait saumon fumé, curry, chou-fleur, oui. Ça c'est très bon. Et on peut rajouter aussi des petites pommes vertes, comme ça on a un peu de fruits. Vous avez vu? Ça m'inspire ce petit velouté
oui,
de chou-fleur, et je vous vois sourire, ça me fait plaisir.
Non, dans la version la plus sobre, moi j'aurais rajouté un tout petit peu de ciboulette.
Aussi.
Non mais
oui,
si c'est n'importe quoi,
c'est un côté aïe. Non,
voilà,
pas du tout.
Ça amenait un petit peu.
C'est parfait, très bien.
Bon bah écoutez.
On adore. Et on va passer un bon week-end.
On adore, on va passer un bon week-end, et je vous dis donc à lundi.
À lundi.
Alors n'oubliez pas que la recette est à retrouver sur le site RTL.fr.
RTL, revivre ensemble.
RTL, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
Vers une dose de rappel pour tous les Français, si les autorités sanitaires la jugent nécessaire et efficace, alors il faudra le faire, annonce ce matin Emmanuel Macron dans un entretien à La Voix du Nord. Le chef de l'État qui semble de fait préparer les esprits. Le taux de chômage est resté stable au troisième trimestre à 8,1% de la population active en France, hors Mayotte. Selon les chiffres publiés par l'INSEE ce matin, c'est un peu moins bien que prévu. Un niveau identique à celui d'avant la crise sanitaire. Ascoval renonce finalement à transférer une partie de son activité en Allemagne. Changement de pied après une réunion hier soir au ministère de l'économie. Le groupe qui voulait déplacer une partie de la production de son usine du Nord vers les hauts fourneaux allemands fonctionnant en charbon, moins cher que les fours électriques français mais extrêmement polluant. Quatrième jour de mobilisation en Guadeloupe contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Plusieurs routes bloquées, des incidents ont été signalés notamment aux abords de l'hôpital de Pointe-à-Pitre où des barrages de pneus avaient été dressés par des manifestants, la plupart cagoulés. L'Amérique envisage de boycotter les JO de Pékin l'hiver prochain. Joe Biden y réfléchit officiellement pour protester contre les violations des droits de l'homme dans le pays. L'option consisterait à laisser concourir les sportifs, mais à n'envoyer sur place aucun responsable gouvernemental. Et puis les joueuses du Paris Saint-Germain se sont qualifiées hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminines en battant le Real à Madrid 2-0.
Merci beaucoup Dominique.